Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Yous. Bienvenue, re-bienvenue, encore bienvenue, vous commencez à avoir l'habitude sur Talkzone, l'hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de débat sur le plus grand club de France par le média Massilia Zone, en direct sur Twitch, tous les lundis à 21h30, en replay sur YouTube et sur votre plateforme de podcast dès le lendemain. Ça, c'est du service. Chaque semaine, je suis accompagné d'une bande d'intervenants à la connaissance pointue, avec qui on débriefera, on débattra de trois sujets principaux à chaque fois, dans la bonne humeur, même si l'actualité olympienne du moment n'incite pas forcément à la bonne humeur, comme vous le savez. Ce soir, au programme, le menu s'affiche en bas pour ceux qui nous regardent. OM-LOSC, un nul. Vierge, un match nul et vierge, comme on aimait entendre. On entendait énormément hein, il y a quelques années, quand il s'agissait de suivre la Ligue 1, on entendait tout le temps ce mot, parce qu'il y avait souvent des 0-0. C'est un peu moins le cas maintenant, mais là, voilà, on a eu un match nul et vierge entre l'OM et le LOSC. Ça ne fait pas l'affaire de l'OM, un peu moins également celle du LOSC, un peu plus peut-être. Le milieu de terrain, on va en parler. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au milieu? On va en parler. Puis enfin, on se projettera sur le prochain match parce que ça ne s'arrête pas avec la Coupe d'Europe. C'est ce qui est parfois un peu reposant de se dire que tu as ce match en semaine qui peut casser un peu le mauvais rythme quand tu es sur un mauvais rythme en championnat et peut-être respirer. Et du coup, ce match arrive un peu comme cette possibilité d'oxygène parce que c'est un quatrième match dans cette poule d'Europa League et c'est déjà un match, un tournant, même si j'aime pas trop cette expression. Bon, quand on parle de la Ligue 1, il y a tellement de matchs, parler de tournant, par exemple en novembre, ça n'a aucun sens, mais là pour le coup, sur l'Europa League, je pense que c'est un vrai tournant. Avec moi pour en parler ce soir, un plateau de choix, comme d'habitude, j'ai mon acolyte, acolyte, je pense pas, j'ai mon acolyte Ariles. Qui est également qui est avec nous ce soir. Salut Ariles.
Salut Yous, j'espère que tu vas bien. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur le chat en direct ou en podcast, vont bien. Et
J'en
je pense qu'on va passer, comme d'habitude, une bonne émission tous ensemble.
On est tous un peu en mode dépression, donc c'est un peu une espèce d'association de soutien. C'est les alcooliques de l'OM anonymes.
Les dépressifs
Les
anonymes.
dépressifs, voilà, je cherchais un mot, merci, merci Younes. Vous l'avez entendu, il y a Younes qui est avec nous également ce soir. Salut Younes.
Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast. Encore merci pour tous les retours que vous nous avez partagés cette semaine pour
Ça
l'émission de la semaine dernière. Ça fait
fait
toujours plaisir.
énormément plaisir et c'est ce qui motive d'autant plus à continuer chaque semaine à vous proposer ça. Et alors ce soir, on a un petit invité, ça me fait plaisir de l'avoir. Ça fait longtemps que j'essaie de l'amener dans mon stream, mais il veut jamais venir. Mais ce soir, il est venu, ça fait plaisir. Donc j'ai compris, il faut faire des talk zones pour que Ruben soit avec nous ce soir. Salut Ruben, comment vas-tu, mon
Ça va et
frérot?
toi, ça va et toi.
Ça, écoute, ça va super, ça fait plaisir de t'avoir. Ruben, pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que la plupart le connaissent, c'est Rubensf sur Twitter, Rubensf911, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Exact,
Voilà.
exact, exact,
Donc
exact.
Ruben, pour en parler brièvement, avant qu'on commence par le cœur de l'émission, le cœur des trois sujets, on a un peu de temps, donc on attend. Mais voilà, Ruben, gros supporter de l'OM, mais Ruben, voilà, twitto, influenceur, mais également ancien, très bon, enfin ancien. Je pense que tu es toujours fort au foot. Tu joues encore ou c'est une...
Ouais, non, là, je
Mais
joue plus
quoi, tu
parce
fais
que...
des five, non, c'est tout?
Ouais, là, je fais des five, mais vraiment, moi, j'essaie de doser un peu
Ok, voilà. Non,
niveau niveau
Rubens,
alors.
bon, et voilà, il a fait centre de formation de l'OL quand même, pour ceux qui veulent. T'étais avec qui qu'on connaît, pour ceux
J'étais
qui.
Olympique Lyonnais, Régénération, bah, en vrai, ceux qui sont là, Oussem Aouar,
Cacré, Awa,
Mathieu
ok.
Cacré,
Ok.
Amine Gouiri, Pierre Kaloulou aussi, Anthony Ratchopi, Golden Young Boys de Berne, là, qui joue demain contre City aussi, et plein d'autres en vrai, 97, 98, 2000. 39 aussi.
Ok, là, des belles générations. Bah écoute,
Et
ça fait.
buteur en Youth League, si je me trompe pas,
Ouais.
Ruben, c'est ça?
Ouais, exactement, exactement. On avait joué
Il faut
l'Ajax.
le dire.
T'as travaillé l'émission, toi. T'as travaillé l'invité.
On avait joué l'Ajax de Young, de Liert et tout en vrai.
Ah ouais,
On
non, c'est
s'était
fou.
fait taper. Hein. Et le petit Nouri, ah, franchement, on s'était fait taper. Ah, c'était chaud, les mecs. Hein. Ah, ça a blagué.
Bah tu vois, tu dis des noms. de joueurs qui sont là et qui jouent, qui après ont percé ensemble en pro. Donc dis-toi que ça fait 6, 7, 8 ans qu'ils jouaient ensemble. Donc c'est qu'ils étaient
C'est ça, c'est
déjà.
ça. Franchement, bah, quand tu les vois au niveau après évoluer,
Tu
tu
comprends, tu dis,
comprends.
bon, ça va, c'est normal, je me sois fait laver.
Ouais, après, franchement, les meilleurs de leurs équipes, le meilleur de leur équipe, c'était le petit nourri, là.
Ouais, qui a
Ouais,
eu un accident.
franchement, les gars, j'avais rarement vu ça. Hein. C'est que pourtant, à l'OL, on en a vu passer, hein, mais quand ils avaient fait la totale là-bas,
Ouais,
on a compris.
et comme tu dis, c'est une bonne manière de jauger parce que tu sais que toi, tu avais du talent avec toi et tu le vois là où ils sont maintenant. Et tu te dis qu'en face, ils vous ont fait mal. C'est dire à quel point, tu vois, il y avait encore peut-être encore plus de talent. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, c'était quelque chose.
C'est ça, et encore, dis-toi, nous on a perdu l'Ajax, l'Ajax derrière, on a perdu Chelsea. Chelsea de Tammy Abraham et tout.
Ouais.
C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie.
Ouais, c'est des vrais. Ouais, mais tu vois,
Ouais, c'est une
c'est.
dinguerie. Nous en poule aussi, qu'on avait aussi, dans notre poule, on avait fini premier devant Valence. Valence, il y avait Carlos Soler, Ferran Torres aussi. Et ça va, eux, on avait réussi à les taper, on avait fait nul chez eux. Et victoire à Lyon, mais même eux c'était chaud. Mais non, vraiment la Euphique, c'est terre de pépites. Hein. Franchement, après c'est dur. C'est vraiment pour les jeunes, c'est l'un des meilleurs apprentissages. T'es comme les pros, t'as les caméras braquées partout sur toi. Tu veux pas te louper, t'as la même pression. Ça n'a rien à voir.
C'est vrai, ouais, c'est vraiment l'antichambre de la Champions
Franchement, pour
League.
les petits de l'OM, quand je les vois, ils jouent la Euphique et tout, ils vont progresser fois 10. Ouais, c'est un accélérateur de révélateur, en fait. C'est un révélateur. Il n'y a pas de secret.
Ouais, et d'une certaine manière, tu vois, je sais que Opti qui est pas avec nous ce soir, qui est un peu malade, on lui souhaite d'aller mieux. Je sais que lui, tu vois, sa première réaction quand on a tous vu que la qualification en Ligue des Champions c'était cuit, sa première réaction c'était ça me fait chier pour les petits qui vont pas jouer cette
Ouais,
Youth
pareil.
League parce que c'est une opportunité de progression et énorme. Et là, la façon dont tu le dis, tu te l'imagines encore plus. Et Lens fait de bons résultats en Youth League cette année, nous dit Lamso dans le
Ah,
chat.
ça prouve que ça bosse bien, hein. Ça bosse bien. Après, Lens, c'est
Pas de
un gros
secret
centre de formation aussi.
aussi. Ouais, et puis c'est historique, hein. Lens, le centre de
Wow,
formation, tu vois, c'est pas
c'est pas juste
depuis.
maintenant,
Voilà,
c'est
c'est pas
depuis longtemps.
depuis l'époque Francaise où la A est exceptionnelle en termes de surperformance. Mais ouais, mais c'est. Bah, tu vois, nous, on a un petit du centre de formation, enfin petit, maintenant qui est un peu moins petit, mais Geoffrey Kondogbia, c'est centre de formation du RC Lens d'ailleurs.
Ouais,
Et
pareil,
d'autres
pareil.
encore. Et d'autres, Serge Aurier, enfin, et peut-être le chat qu'on aura d'autres, ou vous qui nous écoutez en podcast, peut-être que dans votre tête,
Même
vous.
Varane, hein, même
Varane
Varane.
aussi, exactement. Ouais, non, il y a plein
Aussi
de.
simple que ça,
Il y en a
Varane.
plein.
Et peut-être que dans quelques années, on parlera du petit Bermond à Lens, qui est
Vermont?
apparemment
Ok.
Bermond.
Eh ben, on note le nom. On note le
Bermond,
nom,
ouais.
on manquera pas de venir toquer chez toi, Younes, pour te
Je
demander
m'en
des
porte
comptes.
garant.
Super. Bah merci. Bah voilà pour cette petite présentation de Ruben, ça fait plaisir. Et t'es avec nous pour cette heure, peut-être heure et demie, si on a beaucoup de choses à dire. Et forcément, sur ce premier sujet, il y en a des choses à dire. Je sais que vous êtes pas timide quand il s'agit de rebondir sur des matchs et surtout quand ça s'est mal passé. Parce que voilà, ce week-end, l'OM a joué, mais peut-être que ça aurait été mieux de le repousser, ce match aussi. Les Olympiens n'ont pas réussi à prendre le dessus sur un concurrent. Et c'est peut-être ça qui va orienter tout ce qu'on va dire sur ce match. C'est que concrètement, cette équipe qu'on a jouée, le LOSC, est un concurrent. Encore l'année dernière, c'était un concurrent qui était peut-être un peu en dessous. Il y avait une supériorité, en tout cas, au final, au classement. Ça s'est ressenti sur la fin de la saison. Mais là, cette saison, pour le moment, cette équipe est devant l'OM et cette équipe est clairement un concurrent. Et donc, la perte de 2 points, la perte de 2 points contre un concurrent dans une situation d'urgence, car ça fait quand même un petit moment que Gattuso est arrivé. La situation n'était pas au top. Elle n'est pas forcément beaucoup mieux comptablement quand on regarde. Et à date, c'est désormais 10 points qui séparent l'OM du troisième. Et du troisième qui laisse Monaco et cette troisième place, quand on sait que c'est la dernière place directement qualificative pour la Ligue des Champions, peut commencer à trembler du côté de l'OM. Samedi soir, peu de joueurs ont été au niveau et peu ont eu la capacité à faire et la capacité de l'équipe à faire déjouer l'adversaire s'est traduite également par une incapacité à être dangereux dans la surface adverse cette fois-ci. Ruben, on parlait, vu que tu es l'invité, on va faire honneur aux invités. Toi, quel est ton regard là, à J+2 après ce match? Voilà, je sais que tu n'étais pas très content. Hein, c'était un euphémisme. ton regard sur le match de samedi, un peu plus à froid, là, maintenant qu'on est entre nous tranquillement.
Match un peu compliqué, enfin très compliqué. En fait, pour aller à l'essentiel, on a l'impression que, pour moi, hein, je sais pas, je pense on est plusieurs à ressentir ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas joué. Genre, il n'y a pas eu de match le week-end. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de match parce qu'on a rien vu. Et quand je dis qu'on n'a rien vu, en vrai, en fait, le match c'était une prestation vide. Autant première mi-temps, je me suis dit que. Peut-être c'était un manque de gaz, tu sais, 10 jours sans jouer, ça peut être un peu compliqué de redémarrer, etc. Donc à la limite, à la mi-temps, je m'attendais qu'ils retrouvent un peu de jambes. Mais non. En fait, on a l'impression que les joueurs étaient amorphes, au-delà même d'avoir un petit problème tactique, je pense qu'on va évoquer après. On avait l'impression que les joueurs étaient amorphes physiquement. Comme le commentateur, en plus, ils l'ont signifié aussi de leur côté en disant que on avait l'impression que les Lillois étaient plus rapides, plus vifs.
Ouais, il l'a dit Antonetti d'ailleurs. Ouais.
Ouais, il a dit, on a l'impression qu'on est en retard sur un peu tout, même dans les courses, tu vois, quand Aubameyang, je crois que c'est Harit, on lui fait une passe, et Harit, en première intention, il envoie Aubameyang en profondeur,
C'était
il est à
vers
la
et tout
ramasse.
qui aimait le ballon.
Ouais, genre, tout le monde est un peu à la ramasse physiquement, je sais pas, c'est dû à quoi, enfin, en vrai, on le sait un petit peu, mais
Il y a des pistes, ouais.
ouais, décevant, décevant, Après, je sais pas trop ce qu'on doit attendre de cette
Ah,
saison, à
c'est
vrai dire
ça,
qu'on
ouais.
a l'impression qu'on a en fait on a l'impression d'avoir une équipe qui découvre, mais on est au mois de novembre. Et
Compliqué, hein.
après, en soi, ils se découvrent vraiment parce qu'il y a vraiment un nouveau coach, il vient encore d'arriver,
Ouais, tu sens
même
qu'il y
si
a
voilà,
encore beaucoup de taf et
il y a encore beaucoup de
que
taf, mais
c'est
sauf que
encore
là,
ouais.
l'urgence,
C'est ça, ouais.
elle est vraiment présente au niveau comptable, même si moi c'est vrai que on va dire les 2 dernières semaines, j'étais un peu inquiet, mais on va dire la Ligue 1, elle roulait un peu au ralenti, tu vois.
Ouais.
Mais là, c'est vrai qu'avec les 3 premiers, le gap, il commence à se faire sérieusement.
Bah ouais, et
C'est pas
puis tu parlais d'urgence, là il n'y a plus que 7 matchs de Ligue 1 avant la trêve. Dont un match de. Enfin, et puis tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Lens, tu
Que des
vas
matchs
jouer Rennes,
compliqués.
tu joues à
Que des
Lorient,
matchs.
ça va être relou. Enfin, ouais, tu joues à Montpellier, t'as pas de match facile. Enfin, on dit souvent qu'il n'y a pas de match facile en Ligue 1, mais là cette
Mais
année j'ai
là.
l'impression que c'est encore plus exacerbé.
Ouais, en plus, tu as l'impression que cette année, tu n'as pas forcément besoin de bien jouer pour être en haut, tu vois. Genre, cette année, on te demande.
T'as
Autant l'année
des
dernière.
équipes en tête quand tu dis ça? Non, je crois savoir.
Bah, je pense qu'on sait tous. Mais tu vois, l'année dernière, les équipes qui étaient en haut, c'était clairement les équipes qui pratiquaient un beau football, tu vois. Là, cette année, tu as l'impression que tu peux juste être solide, costaud. Et en vrai, après, il n'y a pas beaucoup de buts non plus dans cette saison en Ligue 1. C'est un championnat assez compliqué à en parler, mais en tout cas, si pour revenir à l'OM et la prestation, c'est très moyen, c'est très moyen. On a l'impression qu'on va se contenter des coupes cette saison. Et encore, à voir.
On va parler de la coupe et notamment de l'Europa League après à la fin du podcast. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, Ruben. Toi, Younes, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Enfin, moi, je sais à peu près, hein, mais je pense que
Bah,
les auditeurs ont envie de savoir.
je retiens le mot décevant que Ruben a employé. Pour moi aussi, c'est un match décevant à plusieurs égards. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont positives. On en parlait déjà la semaine dernière quand on est revenu sur OMAEK, que je disais que pour moi, j'étais très content de la victoire, mais que dans le contenu, j'avais trouvé un OM pas très radieux et que j'ai pas pris beaucoup de plaisir devant ce match.
Jusqu'à l'exclusion, c'était
Et
compliqué.
malheureusement, je trouve que ce match-là, bah, il s'inscrit un peu dans le sillage de celui-ci. Et si on regarde déjà sur l'approche du match, j'étais très déçu par Gattuso. Je me permets de le dire parce qu'on l'a quand même beaucoup encensé jusque-là et je ne remets pas en cause tout ce qu'on a dit. Mais là, j'ai une inquiétude quand même assez grande sur la trajectoire qu'il veut prendre parce que le constat jusque-là, c'est que bah, on a fait Monaco et Nice dans son bilan qui sont des bons matchs où tu repars avec 0 points. Il y a Brighton où tu as aussi un bon contenu sur l'essentiel du match et tu prends qu'un point.
T'en prends qu'un.
Et je me dis, c'est peut-être ce qui a conduit Gattuso à revoir son approche. Et à mon avis, c'est le chemin dangereux qu'il faut surtout pas emprunter. Parce que Lille était sur une bonne dynamique, donc tu les
Est-ce...
reçois au Vel
Ouais.
après une semaine pleine de travail, de repos pour les joueurs, puisqu'on n'a pas joué contre l'OL. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu des craintes sur cette belle équipe de Lille, mais le message envoyé, quand ils nous présentent la compo, je trouve que c'est assez inquiétant. Il y a ce milieu à trois dont on va largement parler après, mais je
Ça...
trouve que ça montre un peu une volonté de cadenasser cette zone du terrain, d'essayer de verrouiller un maximum le jeu lillois. Que ce soit dans leur phase de possession ou sur les transitions qui étaient aussi, je pense, très redoutées. Mais c'est surtout offensivement aussi qui m'a déçu parce que le choix, par exemple, de Sarr par rapport à Ndiaye, je trouve qu'il illustre sa volonté de jouer en attaque rapide et en transition plutôt qu'en attaque placée. Le fait d'avoir encore isolé Harit sur le côté gauche et d'avoir eu un Aubameyang qui a été transparent, bah finalement, ça donne une équipe de l'OM qui est complètement inoffensive. Et ça, c'est un visage qu'on n'a pas le droit d'afficher, à mon sens, au Vélodrome. Mais c'est pour ça que je parle de chemin inquiétant pour Gattuso parce que j'ai l'impression qu'il a fait un peu le choix de la sécurité et du contrôle et c'est un très mauvais calcul parce que au-delà du match de samedi qui dans l'absolu n'est pas un mauvais résultat hein, loin de là, faire
Oui,
match
au
nul contre
final,
Lille on l'a dit, ça reste une belle équipe du championnat etc, mais c'est le message
qui
qui est
marche
envoyé
en plus.
ouais, et du coup ma grande crainte c'est que Gattuso bah, il se mette dans une logique où il veut impérativement avoir des résultats très vite au détriment un peu du contenu.
Ta crainte, c'est... Ah, ok, d'accord. Plus dans ce sens-là, parce que j'allais dire, est-ce que ta crainte, c'est pas qui se transforme un peu, on peut peut-être en discuter après, hein, un peu comme un Sampaoli qui... Une fois qu'il a pris la mesure de la Ligue 1et une fois que la Ligue 1 lui a montré à quel point ça peut être dangereux, il
C'est
revoit
ça.
ses plans et sa philosophie dans ce sens-là, quoi.
Ouais, c'est ça. Je veux pas être un oiseau de mauvais
Non,
augure ou,
après.
ou nous rappeler les démons du passé, mais j'ai l'impression que et je crains plutôt, je sais pas si c'est une impression ou si c'est une crainte, mais qu'on se dirige un peu vers ce chemin-là, parce qu'il a abandonné un peu ce qu'il a voulu mettre en place dès son arrivée, à savoir mettre Harit dans le cœur du jeu. Et là encore, on peut reprendre ses propres mots à lui, hein. Il
Il l'a
avait dit
remis
que
sur
c'était
la
sa
fin,
place sur le
mais
terrain.
oui.
On est tous d'accord pour dire que justement c'est l'endroit où il doit être et on doit l'avoir derrière un attaquant et on doit avoir deux ailiers et des latéraux qui se projettent. Et là j'ai l'impression que tout ça il l'a un peu mis en pause sous couvert de l'urgence d'avoir des résultats. Et effectivement l'urgence des résultats elle est là hein, parce que factuellement on ne peut pas se cacher derrière cette 9e place à la 11e journée même si on a un match de retard, on a quand même 11 points de retard sur le podium. Mais je pense que ce dont a besoin l'OM, c'est de valider une idée de jeu. Là, on est en novembre, comme le disait Ruben, et cette idée de jeu, elle doit être conquérante, elle doit être proactive et elle doit être offensive. Pour moi, c'est vraiment les ingrédients sine qua non pour une saison réussie à l'OM. Et du coup, en dépit de la situation comptable à date, on peut pas essayer de glaner quelques points comme ça, juste avec des schémas tactiques de circonstances, parce qu'on reçoit Lille et qu'on veut essayer de les contrer, etc. Donc là, pour moi, le message de Gattuso, c'était je veux contrecarrer le LOSC. Et malheureusement, je pense que c'est une erreur. Il aurait dû essayer de continuer dans l'idée de jeu qu'il a déployée, donc avec ce qu'on avait vu notamment contre Brighton ou même contre Monaco, concrètement, où on a encore eu beaucoup de temps fort sur le match et des phases vraiment intéressantes. Et au final, la seule occasion qu'on a dans le match, parce que les frappes de Rongier, du coup, ça compte pas comme des occasions, mais c'est celle d'Harit à la mi-temps. Pour le coup, je m'arrache les cheveux sur l'occasion. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, parce que la mi-temps vient juste après, donc tu as le temps de cogiter, et je me dis, mais là, en fait, s'il marque, on n'aurait plus rien proposé en deuxième mi-temps. Au mieux, on aurait une victoire en trompe-l'œil, sur laquelle bah, on n'aurait pas pu capitaliser parce que ça aurait été circonstanciel. Et au pire des cas, on aurait eu une défaite qui aurait été méritée. Donc en fait, à ce moment-là, je m'étais juste dit, peut-être que c'est un mal pour un bien, et j'espère qu'en deuxième mi-temps, on va revenir au système qu'il a voulu déployer initialement. Et tu le disais, Youss. Il a recentré Harit, mais ça arrivait super tard. Ça arrivait à 68e minute quand il sort Veretout et qu'il fait rentrer Ndiaye. Donc, au final, tu as tes latéraux qui sont quand même essentiels dans ce jeu-là, qui ont moins de jambes parce qu'on est à la 70e minute. Et même s'il y a eu un peu de mieux sur la fin de match, j'ai
En a un
trouvé
qui
que
avait pas trop de
globalement,
jambes même au début, hein.
c'était pas. Ouais, c'est aussi le problème. Et on avait déjà évoqué la semaine dernière le fait qu'on manque quand même de rotation sur ces postes-là, donc ça risque de pêcher dans la saison si on ne le gère pas correctement. Et après, pour finir sur une note quand même assez positive, là, il y a une
J'allais
satisfaction
dire,
quand même
sinon il y a du positif
dans le
peut-être.
match. Pour moi, c'est l'entrée de Mbappé Maïté. En vrai, j'ai très envie de
Belle
le
entrée,
revoir.
très belle entrée,
Il a
qui
des.
mérite d'être plus vue peut-être du coup après cette entrée.
Clairement, bah, il a des qualités qu'on avait déjà un peu entrevues à Lorient. On va être honnête, j'ai pas vu tous les matchs de Lorient l'année dernière. Mais je le trouve vraiment très dur sur l'homme. Il défend en avançant, il est très bon en 1 contre 1. Et surtout, il a une très bonne qualité de relance. Moi, ça m'a marqué sur son entrée en jeu. Il a vraiment eu toujours la volonté de relancer vers l'avant, de casser des lignes. Et par rapport à Ajvigo, qui est sorti encore une fois sur blessure, les armes à la main, vous diront certains.
Il s'est
Mais
peut-être
encore une
blessé
fois sur
avec ses
blessure.
propres armes, peut-être.
C'est possible. Et pour le coup, ouais, dans ma réalité, j'aimerais bien le voir associé à Bellardi parce qu'il a l'air d'être à l'aise à droite. Donc en plus, ça nous offrirait un peu plus de variété avec Bellardi à gauche et lui à droite dans les relances. Je pense que ça pourrait nous aider aussi et nous faciliter certaines sorties de balles quand on voit la qualité que Bamomeité a dans ce jeu-là et celle que Balardi n'a plus besoin de prouver. Donc pour le coup, c'est le seul point positif que j'ai envie de retenir sur ce match-là, et le fait qu'on finisse dans un dispositif en 4-2-3-1 qui est, à mon sens, celui que l'OM doit avoir pour les prochaines échéances
À venir, ouais.
à venir. Ouais.
Pour rebondir ce que tu disais, il y a un moment où tu dis que, ouais, que Gattuso a mis en pause d'une certaine manière un peu ses principes. Je te cache pas que de mon côté, j'ai l'espoir que ça soit une pause, voilà, une manière de souffler un peu. Cette équipe est pas prête à faire ce que je veux faire, clairement, ni physiquement, ni peut-être techniquement. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et ben, tu sais quoi, d'une manière pragmatique, je vais sur une approche un peu plus, comment dire, pas forcément moins ambitieuse, mais plus axée sur comment s'occuper de l'adversaire avant de comment s'occuper de ce qu'on fait quand on a le ballon. Tu vois, je pense que, j'espère, après, je suis peut-être trop optimiste, je vais reprendre le costume d'Opti vu qu'il n'est pas là. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus, que c'est ça l'idée, que c'est peut-être une parenthèse de respiration avant de peut-être mettre plus ses principes. Parmi les points positifs, moi j'aimerais rajouter deux, trois petits trucs. C'est que, par exemple, ce qu'on a vu à plusieurs reprises avec Paul Lopez ce samedi, qui est monté, qui participait au jeu, la réalisation n'a pas forcément été pleine de réussite. Mais rien que voir ça, je me dis, écoute, je pense que Gennaro, il a cette petite idée en tête d'imposer certains de ses principes, et ça en fait partie. Donc je me dis que j'ai encore, moi j'ai de l'espoir à ce niveau-là, mais on va en reparler. Avant ça, je vais juste interroger Ariles sur le sujet, qui a pas forcément eu l'occasion de parler du match. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? J'imagine que t'as pas été content, hein, comme beaucoup.
Ouais, bah, pour revenir sur le match, je vais essayer de ne pas être trop long et de ne pas paraphraser Younes
Ça veut
et
dire que tu es
Ruben.
d'accord. Ah.
Ouais, globalement, dans le contenu, pour moi, je pense que comme ça a été dit, et je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, c'est les pires matchs de l'OM depuis l'arrivée de Gattuso, parce que quoi qu'on en dise, les trois premiers matchs, même si les résultats n'ont pas forcément suivi en Ligue 1, bah, ils étaient tous plus ou moins intéressants, avec leurs particularités, bien évidemment. Si on prend le cas du match à Nice, qui était la dernière défaite de l'OM, et le dernier match de Ligue 1, avant le match de samedi soir, c'était surtout la prestation défensive qui était à retenir. Contre Le Havre, c'était plutôt ce qui avait été proposé offensivement, l'animation offensive qui se mettait en place avec la montée en puissance d'Amin Harit, qui se manifestait notamment à travers le trio offensif qui formait avec Ndiaye et Jonathan Clauss sur le côté droit. Pour revenir rapidement sur la Hecque, on l'avait dit, mais ça avait été plus brouillon. Mais ça pouvait laisser penser que le coach allait être amené à mieux cerner les limites de son effectif pour revoir sa recette. Et finalement, samedi soir, en fait, on a franchement, personnellement, comme l'a dit Ruben, j'ai rien vu d'intéressant. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai vu une équipe qui avait énormément de mal à mettre son jeu en place, qui avait énormément de mal à mettre en difficulté une équipe lilloise qui est, elle, de son côté, presque arrivée à maturité
Mais
dans la maîtrise de son
Lille non
système de
plus n'a
jeu.
pas mis en danger l'OM. Est-ce qu'on n'en parle pas assez de ça peut-être? Je te laisse continuer.
Justement, je trouve que Lille n'a pas forcément mis l'OM en danger, mais je trouve que cette équipe lilloise, elle est quand même presque arrivée à maturité dans la maîtrise de son système de jeu. C'est d'ailleurs peut-être ce qui arrive dans les clubs où on laisse de la continuité au coach et on table sur la continuité. Parce que Lille a cette faculté à apporter le ballon dans le dernier tiers du terrain que peu d'équipes ont dans le championnat de France, même si après c'est plus difficile dans les 30 derniers mètres. Mais moi, ce qui est d'autant plus malheureux, c'est que c'est pas un 0-0 où, bah, comme tu viens de le dire, où les deux équipes enfin, ont été mauvaises, ont pas réussi à mettre en difficulté, ont pas réussi à mettre en difficulté l'adversaire. Parce que moi, j'ai vu des très bonnes choses, sincèrement, du côté de Lille. Mais c'était pas la meilleure version du LOSC de Fonseca. Ces choses-là, elles sont d'autant plus bonnes, enfin celles que j'ai énoncées, c'est-à-dire par exemple la faculté qu'ils ont à aller dans le dernier tiers du terrain, Elles sont d'autant plus à valoriser par le fait que, inversement, à l'OM, c'est même chose, elles étaient presque catastrophiques. On peut prendre le cas de la défense, qui est pour moi très significatif et sur lequel j'essaye d'alerter depuis un certain temps, en tout cas depuis qu'on fait les podcasts, en l'absence de Leonardo Balerdi, et ce, dans la continuité de ce qu'on avait pu entrevoir contre Brest et Reims en août au Vélodrome, les sorties de balles, elles étaient d'une lenteur. C'était quasiment soporifique. On s'est retrouvé avec un trident Mbemba Gigot Rongé pour les organiser, les sorties de balles. Trois joueurs qui, selon moi, ont un point commun, c'est celui de constamment se déresponsabiliser sur chaque phase de sortie courte. Sauf que du coup, là, lorsque vous êtes trois et que les trois se déresponsabilisent, ça devient compliqué. Et ça a même duré trop longtemps parce que à un moment... Il y avait quelqu'un qui devait y remédier, et c'est là d'où vient l'action de Paul Lopez, dont j'ai vu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, alors que moi,
on
personnellement...
On peut en parler, peut-être,
ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je voulais le remercier. Je voulais remercier Paul Lopez d'avoir mis le capitaine face à ses responsabilités, et aussi face à ses limites techniques. Bon, ça, on va pas en parler aujourd'hui.
Mais après, toi, c'est parce que t'as un truc personnel qu'on doit t'arranger, c'est pour ça.
C'est pas qu'une question... Pour moi, c'est pas que personnel, mais en sortant du cas Valentin Rongier, plus globalement, l'équipe, pour moi, elle a éprouvé énormément de difficultés à sortir le ballon du premier tiers de terrain. Là où du côté de Lille, c'est vraiment simple, c'est leur travail, clairement. Ils savent faire ça. Et au-delà des difficultés dans les 30 premiers mètres, on peut aussi souligner les difficultés sur les phases de transition et dans les 30 derniers mètres. Et pour revenir à la composition, ça a été évoqué. Je reste sur ma ligne directrice depuis qu'il y a eu le passage au 4-3-3 et l'arrivée de Gattuso. Je ne comprends toujours pas comment Ismaïl Assar il peut encore évoluer sur le même côté que Klose.
J'aurais terminé la phrase avant, moi, à ta place. Mais t'inquiète, continue.
Je suis aussi d'accord, mais je peux pas le dire. À mon humble avis, je trouve que aucun des deux n'y gagne quelque chose dans cette association. En tout cas, sur les derniers matchs, c'était criant. Il y a vraiment zéro entente qui s'est nouée depuis fin juillet. C'est deux joueurs qui aiment prendre le couloir, qui se marchent dessus presque, je trouve. Et on a très peu de dédoublement. Ça va faire 2-3 mois bientôt qu'on le voit. Et on a eu besoin, en revanche, avec NJ, de seulement 2-3 matchs pour comprendre que l'association avec Klose pouvait être intéressante. Donc, moi, je ne comprends pas, hein, comme je l'ai dit, le fait que ce trio Klose, Harit, NJ ne soit pas reconduit depuis le match contre Le Havre. Et l'autre choix que je ne comprends pas du tout, du coup, c'est encore lié à Amine Harit, c'est celui de titulariser Harit sur un côté. Même si avec Ballon, il avait la consigne de revenir dans l'axe, je le trouvais beaucoup trop excentré. En tout cas, samedi soir, c'est assez drôle d'entendre, il y a 3 semaines auparavant, ton entraîneur dire que Harit est un joueur d'axe et que, en fait, c'est un joueur qui doit être titularisé dans l'axe pour performer, et puis de le revoir sur l'aile quelques journées après, au premier match important au Vélodrome. Mais voilà, donc j'ai énormément d'incompréhension sur la composition de Gattuso. Mais sinon, pour conclure, pour ne pas être trop long, je trouve que ce match, il a fait que confirmer un peu ce qu'on voit globalement depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'on a un effectif qui, selon moi, est très mal construit. Et ça se fait encore plus ressentir sur le 4-3-3, parce que pour moi, tu n'as ni numéro 6, ni défenseurs centraux qui te permettent d'être dominant. En tout cas, dans une défense à 4. Gigot Mbemba, je trouve ça limité. En tout cas, pour avoir une défense à 4 protagoniste dans un championnat du top 5 européen. Je trouve qu'à la relance, c'est... En fait, c'est pas des défenseurs modernes. C'est des défenseurs, ils sont vraiment très, très limités sur la balle au pied. Mais c'est pas un tout petit peu limité, c'est vraiment très, très limité. Et ça se ressent dans la manière dont ils se déresponsabilisent. Et dans la continuité de ce que tu disais, Yous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas logique de voir Gattuso se renier quand on voit qu'il n'a pas de numéro 6 qui lui permette d'être dominant, qu'il n'a pas les défenseurs centraux qui lui permettent de sortir les ballons rapidement et de casser des lignes par la passe? Au final, c'est un peu logique. Je trouve que Gattuso, aujourd'hui, il fait juste face aux limites de l'effectif. Et c'est des limites qui, pour moi, sont criantes et qui justifient la place de l'Olympique de Marseille.
On avait parlé de cet effectif, de ce recrutement lors d'un précédent podcast. T'ouvres un point que je voulais évoquer. Tu vois, j'avais fait notamment un stream après le match samedi soir où j'étais pas très content comme beaucoup d'entre vous, et moi ma première réaction c'était justement une manière d'ouvrir le débat. Est-ce qu'il faut pas accepter que cette équipe manque de talent? Et tu vois, avec ce que tu dis, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on évoque, parce qu'effectivement, tu as peut-être ce virage qu'a pris Gattuso. Est-ce que c'est pour reprendre un autre virage, ou est-ce que ce virage est définitif? Il a pris la bretelle, peut-être qu'il est parti, on ne sait pas. La question, elle se pose. On en saura plus lors des prochains matchs, on en saura plus peut-être dès jeudi, je ne sais pas. À mon avis, match à l'extérieur, match très important de l'Europa League, il y a plus de chances qu'il soit encore dans les intentions des deux derniers matchs, mais.
Pour moi, c'est un constat un peu trop facile de dire
Vas-y, vas-y, je t'en prie.
que l'effectif est limité. Enfin, j'ai l'impression
Je dirais
qu'on
pas
crie avant
limité,
d'avoir
mais.
mal, pour le coup, parce que moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas essayé d'optimiser au mieux cet effectif-là. Et je suis partiellement d'accord sur le fait que l'effectif soit limité. Et on pourra en discuter en fin de saison quand on aura essayé d'en tirer le meilleur. Mais pour l'instant, j'ai la frustration de ne pas voir Gattuso continuer avec. Les bribes de bonnes idées qu'il a essayé
Non.
d'instaurer. Et ça,
J'entends.
c'est quelque chose que tu peux pas mettre en
Bah.
place ponctuellement. C'est-à-dire que.
J'entends, Younes, mais regarde concrètement, si on se dit j'aurais aimé samedi voir une équipe qui prend plus le jeu à son compte, qui a plus le ballon dans les pieds, car l'OM l'a pas eu du tout, concrètement, quel joueur disponible ce week-end t'aurait permis d'avoir ces options-là? Parce qu'au final, tes deux meilleurs joueurs de ballon quand il s'agit de transmettre, il y en a un qui était suspendu et un qui est blessé.
Ouais, mais
Du
alors
ouais.
sur ça, du coup, la transition est toute faite sur notre milieu de terrain. Pour moi,
Ouais,
c'est.
c'est vrai, on va en parler du milieu
Justement,
après.
Younes, pour moi, le problème, il n'est pas que au milieu de terrain, c'est ça qui est
Bah, pour moi, si.
problématique. Il y a un gros problème au milieu de terrain, mais il y a un problème en défense. C'est-à-dire que pour moi, quand tu veux être dominant, même si quand Balerdi est en défense, bah, tu le vois pas parce que du coup, lui, il prend des initiatives, pour moi, tu as besoin à ce que tu aies deux relanceurs. Soit un minimum
Mais je suis d'accord
bon,
avec toi, Rines.
un bon à la relance.
Je suis d'accord
Et
avec
un
toi.
Mbemba, je suis désolé. Après, peut-être que là, ça commence à devenir personnel. Parce que en fait, ça me frustre.
Ouais, t'es
Mais
à bout.
c'est un joueur d'un certain âge. Il est passé par le FC Porto. Moi, j'en ai marre de le voir enchaîner les passes latérales et jamais prendre de risques. Par la passe. L'année dernière, dans le système Igor
C'est
Tudor,
bizarre parce que l'année dernière, il les faisait beaucoup en
Ouais.
plus.
Justement, Ruben, je trouve que l'année dernière, c'était le système de la défense à 3 qui permettait aux défenseurs centraux, par exemple, de pouvoir monter par la course. Un mec comme Gigot, il pouvait monter parce que c'était un système à 3 qui avait un peu de liberté pour les centraux. Mbemba, il se
Ladinage
démarquait.
le faisait beaucoup aussi, et très bien.
Kolasinac aussi. Mais si on regarde vraiment, le mec qui faisait avancer le ballon par la passe, c'était Balerdi. Et Eric
Après,
Bailly, quand
derrière,
il
y a...
était là.
Après, derrière, ils avaient beaucoup plus de. Voilà, je pense qu'il y a au niveau des automatismes. Parce que quand je sais pas si quand tu regardais bien l'année dernière, quand tu portais le ballon, tu avais immédiatement Rongier ou Veretout qui prenaient sa place en centrale et il y avait. Et le poste il était comblé, donc ça veut dire derrière quand ils portaient le ballon balle au pied, eux-mêmes ils étaient rassurés de se dire bon au cas où je vais faire la balle, j'ai déjà quelqu'un qui prend ma place. Là il y a tellement peu d'automatisme, tellement de sûreté et de valeur sûre dans le jeu qui fait que bah, en fait que je pense tout simplement tu mets n'importe quelle centrale ici, à part Balerdi qui est un peu déglingué, qui voilà qui est un peu voilà je fais mon jeu, tu vois, quitte à perdre, quitte à me faire tailler, tu vois. Tu mets n'importe quel centre à leur place, ils vont faire exactement, parce qu'ils n'ont pas confiance ni en leur milieu, alors encore pire en leur gardien, tu vois.
Mais
Donc,
c'est pour ça que le milieu de terrain, il est essentiel à être analysé ici. Et je pense qu'on va faire la transition du coup sur le deuxième sujet. Mais pour illustrer ton exemple, Arilet, je suis d'accord avec toi sur le manque d'inspiration à la relance de Mbemba et Gigot. Je ne vais pas les défendre. Mais la réalité, c'est que sur le match contre l'AEK, Balerdi, il est là. Et Balerdi, justement, on soulignait la semaine dernière le fait que il s'est senti un peu, il a été un peu trop surresponsabilisé à la relance contre l'AEK.
il n'a pas été
On
bon,
a eu un milieu de terrain
d'ailleurs, ce soir.
désert pour le coup. Ouais, mais il n'a pas été bon
Ouais.
parce que le problème vient du milieu de terrain. Et en fait,
Des
c'est
options
juste
qui sont données,
factuel.
c'est ça que tu veux dire,
C'est
c'est
juste
ça.
factuel. On en a un de trop parmi les trois. Et le pire, c'est que j'en ai aucun sur lequel j'ai envie de jeter la pierre. Que ce soit
Ouais, c'est
Kondogbia,
ça, non.
Rongier, Veretout, je m'en fiche. Peu importe lequel doit sortir pour le match contre l'AEK et pour les prochains. Mais on ne peut pas jouer avec les trois en même temps. Parce qu'en fait, ça bénéficie à personne concrètement.
Pour moi, Younes, je sais pas si Younes, tu veux qu'on passe directement sur le
Non,
débat sur les milieux de
non,
terrain.
je voulais juste ajouter un truc là-dessus, mais vas-y, ça va servir de transition
Bah
après.
vas-y,
Je...
Younes,
Non,
ajoute ton truc si tu veux.
tu
Parce
voulais
que moi,
parler
je
du
voulais passer
milieu?
direct.
Moi,
Ouais,
je
je
voulais.
voulais. Enfin, moi,
Ok,
je
non,
voulais
bah du coup,
passer.
ok. Non, mais par rapport à ce que tu disais sur les trois, et je vais introduire le deuxième sujet, Younes, moi aussi, ce qui fait que je suis d'accord avec toi, c'est aussi parce qu'il y a un point qu'on sous-estime, c'est que techniquement, tu vas me dire, oui, bah là, tu as Rongier, Kondogbia, Veretout. Si tu en enlèves un et que tu mets Harit, tu vas pas forcément mieux ressortir. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut se dire, mais plutôt se dire qu'un Harit, lui, il va se placer haut, il va se placer entre les lignes. Et en se plaçant haut et en se plaçant entre les lignes, tu crées la crainte de l'adversaire. Un milieu adverse qui doit gérer un mec comme Harit entre les lignes, forcément, c'est beaucoup moins lisible pour lui que d'avoir trois milieux et normalement avoir plus de personnes pour ressortir avec les trois que tu cites.
Exactement. Et il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Hughes, c'est que premièrement, c'est que Harit devient une cible entre les lignes que tu peux toucher par la passe facilement. Donc déjà, tu offres une option supplémentaire à tes deux centraux ou à Rongier ou à Kondogbia qui viennent dans les pieds des centraux si on veut relancer à trois. Et comme tu le dis, surtout, il va aspirer la ligne de milieu défensive adverse et il va offrir beaucoup plus d'espace au milieu de terrain. Et ça, l'espace au milieu de terrain, on sait qu'il profite particulièrement bien à Veretout. Et en fait, c'est pour ça que je dis que on peut pas jouer avec les trois parce que les trois eux-mêmes ne se bénéficient pas entre eux. Rongier et Kondogbia, je trouve qu'ils se marchent un petit peu sur les pieds concrètement quand il
Ils
s'agit
ont besoin
de venir
d'être
chercher le
derrière le
ballon
ballon. Et
et de relancer.
vraiment.
Donc au final, tu as deux joueurs qui sont derrière le ballon. Veretout, qui a besoin d'espace, soit pour ses appels, soit pour porter le ballon, soit pour apporter un surnombre offensif, et bien finalement, il ne l'apporte plus parce qu'on est toujours en sous-nombre offensif. Donc en fait, quand il monte pour participer aux actions offensives, concrètement, ce n'est pas un surnombre qu'il apporte. Il apporte juste
Mais
le
non.
quatrième joueur qui doit être là. Donc en fait, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce milieu de terrain, et je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est vraiment ce qu'il faut corriger, à mon sens, sur le prochain match, parce que là, le week-end dernier, c'est Rongier, enfin, contre Lille, c'est Rongier qui rate son match pour le coup. Et les dernières sorties de sa part, elles étaient plutôt correctes. On aime, on n'aime pas, on ne va pas faire le débat bilan sur lui, mais pour le coup, à Nice, il avait été plutôt correct. Et les matchs précédents aussi. Et sauf qu'en fait, on a un Veretout qui est juste mal utilisé. Il est sacrifié pour un pressing sur la défense adverse, comme si c'était un deuxième attaquant. Et du coup, bah, il ne trouve pas sa place non plus au milieu de terrain avec Rongier et Kondogbia. On ne profite pas de ses appels parce qu'il part de trop haut sur le terrain. Et pour le coup, encore une fois, on sacrifie au milieu de terrain notre caution technique qui est Harit. Et ça, on est tous d'accord pour le dire. Opti a fait une tirade dithyrambique sur Harit à juste titre. Et on doit avoir Amine Harit au milieu de terrain. On ne peut pas l'avoir sur un côté où il reçoit un ballon sur quatre de haut jeu et à 40 mètres du but. Donc pour le coup, moi j'ai vraiment peur que Gattuso s'enferme dans ce système-là, pour le coup. Et qu'on enchaîne les matchs avec ces trois milieux de terrain-là à l'avenir et que ça devienne un petit peu son socle en se disant que ça va finir par payer. Mais malheureusement, je ne vois aucune issue positive à ce milieu de terrain et je ne suis pas sûr que ça soit la peine d'insister avec les trois.
À voir, à voir. En tout cas, effectivement, le milieu, on va pouvoir passer à ce deuxième sujet, pardon, le milieu, un problème. Le milieu de terrain est, par essence, un débat interminable hein, au moment des discussions autour de l'OM. Il y a quelques semaines, le débat, il était autour d'Hasdi Nounahi. Là, il est aussi autour des trois qui sont titularisés depuis le retour de Kondogbia. Alors, individuellement, si certains d'entre eux font un début, enfin, individuellement dans le lot, il y en a qui font un bon début de saison, d'autres qui ont des difficultés, et puis il y en a qui peinent à assumer leur statut. Donc, ça fait deux matchs qu'on voit ce milieu de terrain, ces trois, ce fameux milieu Rongbiatou. Trois, ça aurait dû en faire trois si le match contre l'OL avait eu lieu, c'était le milieu qui était aligné sur la feuille de match. Avec donc un Jordan Tréaud sans ballon, on imagine, on en parle, hein, sans doute pour gagner en solidité sans le ballon, mais peut-être au détriment d'apporter du danger plus haut, on en parlait là juste avant d'introduire, avec le ballon. Younes, vu que tu étais en train d'en parler, je te laisse continuer sur ce sujet du milieu de terrain. Toi, concrètement, qu'est-ce qui te pose problème quand tu vois aligner le Rongbiatou, Rongier, Kondogbia, Veretout sur le terrain?
Rien que le nom, il me donne envie de vomir. Je ne sais pas
J'ai réfléchi
s'il est
toute
choisi.
l'après-midi, hein. J'espère que
S'il est
c'est...
choisi à dessein ou pas, mais on dirait un espèce de mauvais antibiotique que t'as pas envie de prendre là.
Ah, tu connais... En plus, c'est le moment pour ça.
Non, pour le coup, désolé d'avoir un peu gâché son introduction en ayant déjà
En
avancé
fait,
quelques arguments sur ce
en
milieu de
la
terrain
regardant,
parce
je me
que
disais, attends, mais on vient juste de
elle est
dire
trop
ça.
belle pour ne pas être faite. Non, mais t'as bien fait. Mais pour le coup, c'est encore une fois. Ça fait écho à ce qu'on disait sur le match contre l'AEK. Cette frustration de les voir associés au milieu, parce que L'idée derrière ça, c'est d'avoir plus de contrôle et plus d'impact physique au milieu de terrain, et ça, je peux tout à fait l'entendre. Le problème, c'est qu'en fait, même sur ce point-là, je ne trouve pas que
On a un peu trop
ce
fond, non?
milieu satisfasse du coup à ces qualités qu'il est censé apporter.
Après, t'as eu des
Quand on
clients
regarde,
en face, c'est
c'est
ça,
ce que je veux dire.
ouais.
Quand on voit le match de Bentaleb et André, Bentaleb, il fait un super match pour le coup. Il a eu le loisir de distribuer tous les ballons qu'il voulait pendant tout le match. Il a joué quand même dans un fauteuil. Alors que normalement, quand tu as Rongier, Veretout et Koundogbia, tu es censé pouvoir harceler à peu près correctement le milieu de terrain adverse. Là, ça n'a pas été le cas.
Les
Donc on a
transmissions qui
pointé
devaient
du
être
doigt.
coupées avec ce Veretout plus haut, ça n'a absolument pas été le cas. Ils
Non.
ont eu totale liberté pour avancer.
Ouais, c'est ça. Il a eu toute l'attitude du monde pour nous montrer que effectivement, il avait une très belle patte gauche. Et ça, on le savait déjà. Je suis juste navré qu'il ait pu l'exprimer aussi facilement samedi soir sur notre terrain. Mais pour le coup, en fait, c'est le seul bénéfice qu'on peut trouver à ce milieu de terrain. Honnêtement, je ne vois pas d'autres qualités que ce trio-là pourrait nous apporter. Et au final, même sur ça, je le trouve décevant. Donc je comprends d'autant moins l'entêtement que Gattuso essaie de porter à ce milieu. Parce que, comme tu l'as dit, il devait être aligné contre l'OL. Et
Contre le
j'espère juste
dangereux
que le.
OL, c'est ça aussi qui peut-être toi t'as fait
Ouais,
bailler.
et encore une fois, je pense que ça aurait été un peu à double tranchant sur ce match contre l'OL, parce que ça aurait pu marcher tellement l'OL est mauvais. Donc si on avait eu un OL aussi apathique qu'on l'a vu les dernières semaines, ça aurait pu donner un OM flamboyant qui marque, etc. Et on aurait pu faire fausse route en se disant bah, ce milieu de terrain marche bien, mais la réalité c'est qu'il ne marquera pas bien. Pour le coup, c'est juste factuel, comme on le disait, il y a trop d'incomplémentarité entre ces joueurs-là, notamment Rongier et Koundogbia, pardon, qui ont tendance à se
Ouais.
marcher dessus. Et au-delà de ça, j'ai l'impression aussi que Rongier est le seul, entre guillemets, le seul qui peut fonctionner avec l'un des deux. C'est-à-dire que l'association Koundogbia-Veretout, on l'a vu qu'une fois cette année, si je ne me trompe pas, c'est contre le Pana à l'aller. Dites-moi si je me trompe, mais c'est le seul match où j'ai en tête cette association-là. Pour le coup, c'est une association qui avait été catastrophique au milieu de terrain. On avait pris une danse pas possible et on avait pris des vents de tous les côtés. Donc j'ai l'impression que ça a un peu refroidi l'idée que les deux pouvaient être associés ensemble. Donc finalement, Rongier va toujours être le dénominateur commun. Et en soi, je n'ai aucun souci à ça. Mais c'est soit Rongier, Koundogbia et Harit devant, soit Rongier, Veretout et Harit devant. Et en soi, je n'ai pas de mal à ce que ces trois-là ne commencent pas les matchs à chaque fois. On a des matchs tous les 3 jours. Il n'y a aucun mal à ne pas avoir une hiérarchie claire au milieu de terrain parmi ces trois-là et qu'ils se partagent les deux postes tous les trois.
Oui, ils
De
sont.
surcroît avec Koundogbia qui a quand même un certain âge et avec lequel on est quand même conduit à devoir prendre certaines précautions pour le ménager et pouvoir en tirer la pleine quintessence.
Ouais, après, tu sais, Kondogbia, il est de la même génération que les deux autres. Hein. Ah non, je dis n'importe quoi. Kondogbia, c'est. Ouais, enfin, si Rongier, Kondogbia, 93-94, mais Veretout, j'avais un doute, il me semble que c'est 93 aussi. Ouais, au final, ils ont à
93,
peu près tous le même âge, mais c'est vrai qu'il. En tout cas, sur ce début de saison, il est peut-être. On a l'impression qu'il est un peu plus sujet aux
aux blessures, ouais.
blessures, ouais, clairement. Et puis, dans sa carrière aussi, ouais,
Après,
également.
je pense qu'il il a joué plus de matchs dans sa carrière
Ouais,
que Rongier
peut-être
et
un plus haut
Veretout aussi,
niveau
pour le coup.
aussi.
Oui, et plus de matchs aussi, donc dans des clubs qui jouaient tous les 3 jours
Ça joue
plus
aussi.
souvent.
Ouais, c'est un truc qu'on oublie. Et puis il a aussi commencé sans doute plus tôt, parce qu'il est parti très tôt à l'étranger. Il a commencé très tôt, Geoffrey Kondogbia, à Séville notamment. Ouais, non, mais du coup, en tout cas, au milieu, il y a plusieurs propositions. Et puis, quand on prend en compte autre chose, quand on prend en compte autre chose, excuse-moi, c'est que d'ici un mois, il y a un autre milieu qui va s'ajouter à l'équation. On l'a tous oublié,
Gay.
c'est pas Gueye.
Oh
Je crois que toi, tu l'avais oublié et je t'ai abattu là.
là. Non, mais ça, c'est pareil. Les gens, ils pensent que quand Gay va revenir, ça va être.
Ça va être
Après,
pas ce
je comprends.
qu'il était avant, en fait, c'est ça, c'est qu'ils oublient.
Ouais, en fait, je comprends pas. Je veux bien que les absents peuvent avoir tort, tu vois.
Ils ont
Mais
raison
faut pas
là à l'OM,
oublier.
en fait. Les
Mais
absents, ils ont
on
raison.
connaît la chanson par cœur. Je sais exactement comment ça va se passer. Là, tout le monde est excité. Il dit, ouais, Gay, il va revenir. Super indiscutable. J'ai vu des pages et des supporters qui disent, ouais, Gay, il revient juste avant le dernier match de l'année. Il faudra le mettre titulaire. Enfin, et les gars, déjà, un mec qui n'a pas joué 6 mois, c'est très compliqué. Il n'aura pas joué depuis 6 mois. Et derrière, ouais, il a fait un prêt intéressant. On parle de la prépa, mais la prépa, il suffit juste qu'il ait bossé 2 semaines de plus avec son prépa, il en avance sur tout le monde, tu vois.
Ouais, et puis en prépa, il a aussi après... beaucoup joué en 9 à côté de d'Aubameyang.
Mais oui, en plus, il a joué numéro 9. Hein.
Oh là, par rapport à ça, en vrai, tu sais comment marche la vie de vestiaire et l'importance de l'entraînement à la semaine, mais la hype, elle vient principalement du fait que tous les coéquipiers ont l'air dithyrambiques sur
et toutes les vidéos de l'entraînement.
Ouais, et toutes les vidéos aussi.
Après, ça existe, les jeux d'entraînement, on en a tous vu. Hein,
ah, oui. Ah, je crois que l'OM, honnêtement, il joue un peu sur ça aussi. Hein.
Honnêtement, je pense que la hype vient de là, pour le coup, et... On n'est pas à l'abri qu'il est
pris
la mesure de son talent.
Mais après,
quand il arrive à l'OM, c'est un crack quand même, Pap Gaye.
C'est vrai que c'est un crack. Capitaine Ligue 2 et tout.
Hein. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il rejoint le groupe, c'était au Portugal, ils étaient à Faro à ce moment-là.
Ouais, le premier match, c'était dingue.
Et le premier entraînement aussi, je crois que sur le premier entraînement, il y a une vidéo qui sort direct où il fait un gris-gris, il se mêle, et il marque un but dans un petit but. Enfin, ça avait excité tout le monde. Il arrive avec un certain statut quand même, Pap Gaye, à ce moment-là.
Non, c'est du sérieux, c'est du sérieux.
Bah là, le problème, c'est qu'il va devoir jouer des matchs qui comptent.
Ouais, c'est ça le problème.
Non, mais ouais. Bah, en tout cas, dans le chat, ils sont pas forcément d'accord avec vous. Il y a Lamso qui, lui, perso, il comprend pas cette hate, entre guillemets. Bah, après, je suis là, pour le coup, Rubens est pas fan, mais je suis pas sûr qu'il y ait énormément de hate. En tout cas, Gaye, que les gens aiment ou pas, je suis pas sûr qu'il y ait une hate. Ça, je suis sûr qu'il y en a pas.
Mais en vrai, c'est pas hate. C'est juste faut
juger ce qu'on a vu et non pas ce qu'on a voulu voir. C'est ça que tu veux dire.
Voilà, tu vois, faut prendre un peu de recul. Je sais que c'est dur de ce qu'on voit au milieu de terrain actuellement. Tu vois, on a l'impression que n'importe quel autre joueur ferait mieux. Après, c'est une question de système aussi. Rongier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un joueur correct, plus que correct même pour la Ligue 1 en tout cas, il peut faire amplement son travail.
C'est le joueur le plus sous-coté de Ligue 1 pour Savanier.
Après, c'est plus un joueur système, tu vois. C'est un joueur que quand le système il est bon, lui il s'en sort bien, tu vois. Verretou, c'est un joueur, on va dire, un peu pareil, même s'il est un peu plus autosuffisant. Et Kondogbia, c'est un joueur de part. Sa densité physique qui lui est clairement autosuffisante, tu vois. Il n'a pas forcément besoin que les autres autour soient performants pour que lui ressorte du collectif, tu vois. Donc et après on parle de Gaye, mais quand tu vas revenir aligner deux gauchers au milieu de terrain, est-ce que ça va le faire, tu vois?
Ah ouais, ça aussi, ouais.
Et parce que c'est un peu les mêmes profils, hein, Kondogbia. Bon, après Kondogbia avec plus d'expérience et autres, tu vois, mais et tous les mecs comment?
Ouais, non, je suis pas sûr qu'on voit les deux ensemble.
Même pas sûr que ce soit compatible en vrai, tu vois. Donc ça veut dire au final, ce sera soit Kondogbia qui va être enlevé et ça va être du Rongier, Verretou, ou en fait, on revient toujours, même débat.
Ce qu'a fait Verretou depuis quelques matchs, peut-être que c'est Gaye qui le fera.
Ouais, mais comment tu les places? Si tu es dans un 4-3-3 à la limite, pourquoi pas? Tu mets Kondogbia en 6 et Gaye un peu plus en relayeur. Mais si c'est dans un 4-2-3-1 comme on le souhaite tous avec Amine en 10, les deux en deux, sur les deux lignes là.
Non, bah déjà, même... déjà qu'on revoit Amine en 10. Là ça fait un petit moment que ça n'a pas été le cas. À part quelques minutes là, sur le match contre Lille. Mais...
Pour orienter eux-mêmes de leur côté leurs actions dans la diverses ouvertures qu'ils pourront faire, que ce soit Gaye ou Kondogbia, celui qui va agir à droite, les deux n'ont pas de pied droit. Pour trouver des angles de passe pour eux, ça va être non, je sais pas, c'est pour ça que je dis Gaye, au-delà même du niveau du joueur en termes de compatibilité, en fait ce serait bien d'avoir un Gaye mais droitier, tu vois.
Ouais avoir au niveau de la compatibilité. Après moi, ouais. je te cache pas que moi perso Gaye, j'attends son retour parce que c'est un joueur que j'aime bien. Après, je suis d'accord que à l'OM, ça a jamais été extraordinaire, mais il sort d'un bon passage à Séville. Sur la prépa, il a montré des choses, donc il y a peut-être aussi l'espoir d'eux. Voilà, c'est aussi ça. Hein,
ouais, franchement, mais même ne serait-ce que d'avoir une nouvelle tête, tu vois, entre guillemets, un nouveau joueur dans ce secteur-là, ça fera pas de mal, tu vois, de temps en temps de voir un. Je sais pas moi, un 4-3-3 Gaye, Kondogbia en 6, Gaye, relayeur avec Unai ou même avec Verretou, tu vois.
Ouais, il y a Unai aussi.
Au moins, question de tester quelque chose, tu vois. Parce que que là, en vrai, comme tu as dit, tu parlais du match, c'est ce qu'on aurait pu changer. Comme dans la compo, là, rien.
Bah, tu vois, des joueurs dispo, c'est ça en fait. Enfin.
Pas dit mot, tu peux rien changer.
Ah, bah si,
Oui.
simplement mettre un milieu de terrain,
Un milieu à
Rongier-Verretou
deux, peut-être.
ou.
Enfin, en tout cas,
Ou
Arita,
ouais,
Arita plus Axel.
et Harit Andis et Ndiaye sur un côté.
Ouais, mais après, ça c'est ce que nous on veut, mais pareil,
Bah,
comme quand on parlait au Gattuso, il devient un peu frileux, parce que lui, je pense, comme on a dit, il est venu avec son idée, où il s'est dit, moi je veux jouer, de toute façon, je n'ai rien à perdre, je viens. Et là, il commence à un peu faire comme tous les coachs à l'OM, hein. Il commence à un peu devenir frileux, tu vois.
C'est ce que nous on voulait, oui et non, parce que c'est aussi ce que lui-même a prôné dans
C'est
ses conférences
ça.
de presse. Hein. Les mots qu'il a eus sur Harit et sur l'importance de l'avoir au cœur du jeu et que sa place était au cœur du jeu et pas ailleurs, c'est lui qui l'a dit. Hein. Je veux dire, c'est pas nous. Nous, on le soutient et on est d'accord avec lui. On l'appelle de nos voeux aussi, mais c'est lui qui le dit. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à lire un peu cette volte-face de Gattuso. Je trouve ça intéressant ce que
Ouais.
dit Youss sur le fait
Ouais.
que ce soit une parenthèse. Une petite
J'espère, hein, en tout
parenthèse, pour
cas.
moi, ça reste
Vas-y.
une erreur quand même, parce que,
On va vite le savoir, hein, façon, vu les matchs.
comme le disait tout à l'heure, au mois de novembre, on n'a toujours pas de certitude dans le jeu, et malheureusement, le temps court, on va devoir passer par une très bonne série cette année pour pouvoir remonter au classement, et elle peut intervenir, moi je suis convaincu qu'elle peut intervenir,
Ouais, moi,
mais
je suis sûr qu'elle va intervenir. Après, le truc, c'est quand elle va intervenir, est-ce qu'on sera déjà loin? Que je
faut
casse.
mettre, faut
Et puis
mettre les
surtout,
éléments en place.
maintenant, faut compter sur les adversaires aussi. Là, on parle de nous, mais il faut aussi que devant, ça ralentisse. Je sais que Nice, personnellement, je suis convaincu que c'est une équipe assez jeune. Ils vont ralentir, mais de combien? De combien, les gars? Parce qu'ils ont 10 points, je crois, quasiment 10 points d'avance, là.
Plus, ouais.
10 points. Moi, je compte plus sur Nice que Monaco. Je vous cache pas, Monaco, ça va pas baisser. Je pense pas du tout que Monaco, ça va baisser. Nice, tu as 10 points de retard. Faut que tu commences à tirer à peu près quand. Ça va être dur, hein. Franchement, là, c'est pas. Je sais qu'on va en faire une, hein, mais c'est une question de mathématiques. Si t'as beau faire ta série, tu vas gagner 10, ma 10 matchs sur 10, tu vas en gagner 7, mais si les mecs, ils n'en perdent pas, ils n'en perdent pas.
Ouais, après, sur le nivellement par le bas un peu du championnat cette année, j'ai à peu près le sentiment que les équipes peuvent facilement perdre des points. Hein. On l'a vu, par exemple, le déplacement à Lorient pour Lens ce week-end. Tu peux mettre Nice là-bas. Là, ils ont le vent en poupe.
Les
Mais
gars, vous savez que
c'est un déplacement difficile.
chose assez dingue, j'ai vu une stat sur Twitter. Non, je ne l'ai même pas vue, je l'ai écouté à RMC. Et je l'ai ressorti sur Twitter. Vous savez qu'on est à 3 points du barragiste.
Après, t'as un
Oui,
match
t'as un match en
en.
moins, mais tu es
Ouais,
à
pas
3 points du barragiste.
toute la
Mais
Ligue 1 est à 3 points du barragiste en ce moment. C'est
non,
vraiment serré entre la 17e place
mais
et
c'est
la.
quand même dingue. Je crois qu'on
Mais
te rend
qui est
à
Metz,
3
hein,
points.
qui est Metz d'ailleurs.
Je crois qu'on ne te rend pas compte de cette stat, notamment parce que vas-y, on a l'autre Olympique qui souffre un peu, donc du coup tout le monde en rigole. Mais on est à 3 points. Je pense que quand on aurait commencé la saison, on se dit qu'en novembre, on va être à 3 points du barragiste. Personne allait croire.
Surtout si tu ajoutes à ça ce qui s'est passé cet été, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même s'inquiéter de la saison qu'on a et ça serait intéressant,
Suis plutôt
je
d'accord
pense,
avec toi, Alessa.
lors de la prochaine trêve, de parler du projet sportif du club, parce que je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Moi, je voulais juste revenir sur le milieu de terrain rapidement avant de passer au prochain sujet. Moi, j'estime qu'actuellement, Gattuso, il utilise plutôt un 4-2-3 ou un 4-3-3. Le gros problème de l'effectif, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de numéro 6. Alors qu'Ndombele, il peut jouer dans un double pivot, un peu un rôle qui peut s'apparenter à celui numéro 6, mais dans un 4-3-3, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu énormément évoluer, parce que c'est quand même différent d'évoluer dans une configuration de double pivot, un poste un peu plus de 6, et dans un 4-3-3, d'être la sentinelle devant la défense. Et après, je trouve que dans les trois du milieu, il y a un profil qui, moi, me pose problème. Pour une équipe qui veut être dominante, c'est celui de Rongier. À savoir que Rongier, bah, c'est un joueur dont les qualités essentiellement sont celles de récupération. Donc, alors oui, il va être très intéressant dans le contre-pressing pour récupérer des ballons. Par contre, avec ballon, il est limité. Et Rongier, le problème qu'il a, c'est que bah, si pouvait évoluer comme numéro 6, bah, il pourrait être utilisé dans le 4-3 actuel. Sauf que le problème, c'est que Rongier, c'est
Pourtant,
pas un 6.
il peut pas.
C'est pour moi, c'est pas un 6. Et si on considère Valentin Rongier comme un 6, alors on se trompe sur son poste.
Mais là, sur les quelques matchs qu'il a joué, il l'a fait à plusieurs séquences.
Il peut le faire sur un match, bien évidemment. Je pense, mais quand on regarde les matchs où il a évolué 6 sur cet Arsenal Olympique de Marseille, il doit en avoir 4-5. De tête, j'ai celui contre Clermont avec Sampaoli, on perd. Contre Nice en Coupe de France.
T'es
Nice,
pas obligé d'aller si loin, là. On en a joué un à Nice, là, il n'y a pas longtemps. C'était peut-être le meilleur joueur sur le terrain.
Il n'y avait pas de pression en face. Nice était plutôt en bloc bas. Il était assez tranquille sur les sorties de balles. C'est un match. Alors oui, par rapport à d'habitude, c'était plus intéressant, par exemple, ce qu'il faisait sur les sorties de balles. Mais je ne sais pas s'il convient d'être pris en compte. Parce que je trouve que Nice avait un style de jeu particulier.
Mais qui se rapproche plus du style de jeu de 90% des équipes que tu vas jouer plutôt que celui de Lille. Hein,
Justement, je trouve pas. Parce que, par exemple, tu regardes les équipes qui t'ont affronté cette saison au Vélodrome. Par exemple, Brest, par exemple, Reims, par exemple, Lille. Elles sont quand même venues te chercher sur le porteur du ballon au milieu de terrain. Ou même, elles sont venues fixer ton numéro 6. C'était pas le cas de Nice. Contre Nice, Rongier, il avait énormément de liberté. Et je trouve que...
Ouais, mais dans un monde normal, c'est pas Rongier qui doit porter le jeu de ton équipe. Hein. Ouais.
Il est là
pour colmater les brèches.
Oui.
Il est là pour récupérer des ballons.
Il doit isoler les transitions adverses. Quand tu es numéro 6, tu dois détruire l'animation offensive adverse, tu dois récupérer des ballons. Mais on attend quand même de toi ce que tu sois... Tu permettes à l'équipe d'être dominant par le jeu que tu as quand tu as le ballon dans les pieds. Alors, je te demande pas d'être Ougarté et ou Verratti. Bah
justement, par exemple, Ougarté sous pression, c'est peut-être là où il a des difficultés. Hein. Ça l'empêche pas d'être le 6 du...
Mais, je crois que je préfère Rongier à Ougarté.
Par exemple...
Non, mais vous n'avez pas entendu la fin de sa phrase.
Non, j'ai dit sur ce plan-là.
En fait, j'attends un minimum, même si ce n'est pas forcément le rôle du numéro 6, de verticaliser un minimum. Ce n'est pas son rôle de me balancer une ouverture sur le numéro 9 ou sur l'ailier toutes les 5 secondes. D'ailleurs, contre Nice, vous avez dit, et oui, il l'a bien fait contre Nice. Le problème, c'est que c'est le seul match où il l'a bien fait sur... où il a évolué 6 et où il l'a bien fait. Moi, je trouve que son profil est limité parce que c'est un relayeur. Sauf que c'est un relayeur dont les qualités essentiellement sont celles de récupérer.
Je suis pas d'accord avec ça. Mais justement.
Attends, pardon, Yous, mais ouais. Avant que ça s'affole dans le chat, j'ai pas dit que je préférais Ougarté, que je préférais Rongier à Ougarté. J'ai juste dit que techniquement, Rongier m'inspirait beaucoup plus de confiance qu'Ougarté. Ça n'empêche pas que Ougarté a beaucoup plus de volume physique que lui et beaucoup plus efficace dans la récupération du ballon.
Ouais. Non, mais voilà, tu fais bien de faire ce petit disclaimer. Bon, après, on sera pas d'accord ou pas. Je vois qu'Alilou dans le chat n'est pas d'accord avec toi, mais voilà, Younes a pas dit qu'il préférait Rongier à Ougarté. Mais oui, non, après, pour revenir sur le sujet Rongier, Ariles, Rongier, c'est quand il joue à Nantes, c'est un milieu qui joue à plein d'endroits.
Il a joué 10.
Non, il n'a pas joué que 10, il a joué partout à Nantes. Rongier.
Il a joué avec. Comment il s'appelle le milieu de terrain là.
Il a joué à tous les postes, Rongier à Nantes. Et Rongier, c'est un joueur qui, quand il a été formé, jouait plus bas. Il a joué par séquence en 10, de même manière que...
Voilà, essentiellement, il a joué 8, il a joué avec...
Non, il a joué 6 aussi. Non, c'est pas vrai. Il a joué 6 aussi.
Moi, je me rappelle.
Mais là, pour moi, on est sur des micro-détails. Avec les qualités-là, il est capable de jouer 6. On peut pas dire que c'est un relayeur, Rongier, justement.
Pour moi, je suis désolé. Un pic de Marseille qui veut être dominant, Rongier ne doit pas être ton 6.
Mais toi-même, il ne veut pas être dominant. C'est ça, le truc, en fait. C'est que je pense qu'il y a il y a une incompatibilité avec ce qu'on en pense.
Avec Gattuso, je crois qu'il y a quand même un minimum de volonté d'être,
ouais, d'être dominant. On t'a donné l'exemple d'un joueur de pas de niveau similaire, on est complètement d'accord, ne criez pas dans le chat, mais qui a un profil peut-être similaire avec des limites sous pression, comme Ougarté, dans l'équipe la plus dominante du championnat. Ça pose pas de soucis. Pour moi, c'est un tout, Ariles, et faire ce que tu fais en ciblant Rongier, je pense que c'est pas...
Non, je le sais pas.
C'est un faux procès.
Je pense que c'est pas ça qui ferait avancer le truc.
Moi, j'estime que juste, quand je regarde, c'est entre Verretou et Kondogbia, pour moi, il doit pas jouer 6. Ce n'est pas son poste de jouer 6. Sur la comparaison avec Ougarté, Du peu de matchs que j'ai vu du PSG, quand Ugarte a le ballon, je trouve qu'il a un minimum, il apporte un minimum de verticalité par la course quand il récupère le ballon, ou par la passe, il fait quand même quelques passes vers l'avant. Rongier, je trouve au contraire que c'est un jeu qui est très. Même si on va me sortir les datas où on va me dire oui, c'est le milieu de terrain qui fait gagner le plus de mètres, mais les matchs, on les voit, c'est énormément de passes qui sont latérales. Je
Ouais,
repense à
mais
la séquence
après,
face à l'AEK.
tous les milieux n'ont pas vocation à faire que verticaliser. Et il y a un moment donné aussi, je pense qu'il y a des coachs qui demandent certaines choses. Et Rongier, je suis désolé, hein, il y a des séquences où il montre qu'il sait faire la passe verticale, il sait donner dans le dos. D'ailleurs, à Nice, il y en a plusieurs où tu vois qu'il le tente. C'est un joueur qui sait faire ça. C'est pas parce que au
Mais
service d'un
regarde,
collectif. Ouais.
tu vois la séquence contre la séquence de justement la séquence de samedi contre Lille où il est surpris de recevoir le ballon. Bah pour moi, un numéro 6, normalement, il doit pas être surpris de recevoir la
Et à
balle.
Nice, dans cette position-là, il n'était pas surpris et à chaque fois il a fait ce qu'il fallait. Donc c'est aussi contextuel. Je pense qu'il là il était il est il a il a fait, il est clairement fautif. Hein, ça, je vais pas te dire le contraire. Hein, pour moi, il est clairement fautif sur l'action. Mais c'est pas ça doit pas déterminer sa capacité à jouer là ou pas. C'est que là pour moi c'est un peu tombé dans la facilité. Si on se dit regarde, on lui a fait une passe, il a pas réussi. C'est bien la preuve qu'on peut pas le mettre. Tu vois ce que je veux dire?
Non, moi j'estime juste que l'Olympique de Marseille ne doit pas évoluer avec Rongier en numéro 6. Après, ça reste mon avis. Moi, c'est de ce que
Faute
je vois
de
du
mieux à
joueur
l'heure
depuis le
actuelle.
début.
Faute de mieux au final. Tu vois, tu
Je
parles de
pense que Kondogbia.
Kondogbia. Moi, idéalement, je mettrais Kondogbia à ce poste-là. Mais on n'a pas non plus des garanties. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu Kondogbia en sentinelle dans une équipe. Je demande à voir. Je pense qu'il a les qualités pour. Mais tu vois, je ne suis pas persuadé que ça change tout de faire ce simple changement. Tu vois, par exemple.
Bah, moi, j'estime en tout cas personnellement que conviendrait plus d'avoir un Kondogbia à 6, voire même un Veretout qui l'a fait à la Roma où il joue un peu dans un rôle de regista. Et d'ailleurs, il était très bon là-dedans, même si à l'OM, c'est vrai qu'il a plutôt brillé par ses projections sur le côté gauche. Et puis, logiquement, dans les relayeurs, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qui tu mets à côté de Veretout ou Kondogbia. Est-ce que tu mets Rongier pour assurer un peu plus une plus grosse efficacité sur les récupérations hautes? Est-ce que tu mets Unai pour être un peu
Je pense qu'il
plus.
est. Je suis désolé, hein. Je vais faire un mini mea culpa, mais je pense qu'il est. Je pense qu'Unai est obligatoire, pour reprendre l'expression de certains. Ça tient qu'à moi, mais je pense
Ah.
vraiment qu'il est obligatoire dans cette
Mais est-ce que
équipe. Ah ben
justement, du coup, c'est pas Harit, le
là
mec que tu mets?
vous raisonnez dans l'idée qu'on persiste avec ce 4-3-3. Or, je pense
Ah,
qu'on est
ça.
tous d'accord pour dire que c'est pas le système le plus adéquat. Pour l'Olympique de Marseille
À
sur le
voir.
début de
Après,
saison.
tu sais, c'est une question d'animation. Hein. Moi, tu sais, ce 4-3-3, si Harit, au moment de toucher les ballons, il est axial et qu'il y a peu importe de quel côté, peut-être à droite, du coup, et que lui, il est très axial et que Klose est très dans la largeur, ça me dérange absolument pas.
Ah
Tu vois,
oui,
enfin,
si on part sur un 4-3-3
voilà, tu vois,
avec
je me dis que.
Kondogbia, Veretout, Harit, pourquoi pas, ou Rongier, Veretout, Harit, on est tous d'accord. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir l'association des trois au milieu et on doit choisir que deux sur les trois. Je pense que c'est sur ça qu'on est tous d'accord,
Ouais,
j'espère.
mais moi en tout cas, je persiste. Hein. Je pense que cette équipe, et on l'a vu, après, tu avais aussi Balerdi qui n'était pas là, donc ça arrange rien dans le jeu, en tout cas, quand tu avais le ballon. Mais sur un match comme contre Lille, hein, Unai aurait fait énormément de bien. Parce que justement, enfin, y a un certain qu'on peut lui reprocher sa neutralité dans le jeu, mais neutralité veut dire aussi peu de déchets, capacité à tenir le ballon et à connecter les joueurs les uns avec les autres, parce qu'il a il a un rôle qui est quand même ultra intéressant quand il était titulaire. C'est que il avait cette capacité à commencer 10 secondes avant à gauche et à connecter les joueurs à gauche, et 10 secondes après se retrouver sur le côté droit et connecter les joueurs à droite. Et ce rôle-là, ça peut t'aider quand tu as beaucoup de difficultés à tenir le ballon, comme tu l'avais contre Lille samedi. Donc moi, c'est ça qui me fait penser ça, c'est que je pense que en dehors de lui, et j'ai du mal à en trouver un autre, je pense que cette équipe, elle manque vraiment énormément de talent pour tenir le ballon. Je vous ai tous. Non, je sais que Ruben, toi, tu aimes beaucoup Unai. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce que je viens de dire.
Ouais, après, c'est quand même mon objectif. C'est vrai qu'à Nice,
T'as
il
pas
m'a un
plu?
peu.
Ouais.
Ah, il m'a
Ah.
trahi, il m'a trahi. Franchement, moi qui défends énormément que lors de votre dernier podcast, je crois que c'est Younes qui l'avait défendu. J'avais écouté ça dans l'erreur le matin, je m'étais levé, j'avais applaudi. Mais Mais ouais, non, là, c'est vrai qu'Annie, il m'a un peu trahi. Mais je pense qu'il va... en fait, je pense qu'il va revenir naturellement. Après, le problème, c'est que autant les autres fois où on trahissait un peu sa nonchalance naturelle, autant à Nice, là, il n'y avait pas de nonchalance naturelle, il voulait juste pas jouer. Vraiment, il voulait pas jouer.
Ouais, ça c'est un autre point aussi.
Ah, il voulait juste pas jouer, mais il doit s'imposer. Genre, je suis désolé, même pour un joueur qui aspire à jouer au-dessus, je suppose, dans un milieu comme ça, en plus qui cherche une équipe de l'OM qui n'est même pas en place. Il doit s'imposer. En plus, c'est le seul mec avec ce profil-là. Il n'est même pas en concurrence avec quelqu'un. Il doit s'imposer. Mais encore une fois, après, ça dépend de lui. Hein. Genre, à la limite, le coach l'appelle de ses voeux qu'il soit titulaire, tu vois. Mais gros, c'est le mec derrière, il ne te le rend pas. Il te le rend pas. Mais encore une fois, ouais, si on doit revenir sur le papier, il doit être titulaire tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Ne serait-ce que. J'ai une stat. Désolé, j'ai beaucoup de stats.
Ah,
J'ai une
vas-y,
stat.
opta.
J'ai vu une stat de Veretout, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai cité. Il n'a pas fait une seule passe vers l'avant de tout le match samedi. Et passe vers
Après,
l'avant.
ouais,
Attends,
si
la
tu... je
attends,
pense qu'Aubameyang
attends.
non plus, hein, tu vois, par exemple.
La définition. Et
Sur
attends,
où la stat?
je vais
Attends,
apporter
pardon,
une
Ruben,
précision.
désolé, mais l'occasion de Aubameyang, c'est une magnifique passe de Veretout en une touche. Hein.
Non, la passe, c'est la passe. C'est Harit qui l'a pris en une touche. Je me rappelle parce que sur le coup, je me souviens qu'il m'avait fait penser à Payet, qui faisait beaucoup cette passe-là. Tu re-regarderas, c'est Harit qui l'envoie au but. Vraiment, vraiment, t'inquiète pas, je suis sûr. Et
Ah,
ce que j'appelle dans la...
je te fais confiance.
Et ce qu'ils ont donné comme définition, le type de stat, ce qu'ils appellent passe vers l'avant, c'est passe à plus de 10 mètres devant. Et la plupart des gens, au début, ils disaient oui, mais après, il a eu Aubameyang, il a joué super haut, tu sais, un peu Veretout. Il me disait, ouais,
Ouais.
Veretout, il a joué quasiment en faux neuf, etc. Et puis, il y a Tigré qui a sorti le placement de Veretout dans le match. C'était le milieu qui a joué le plus bas dans le match. Et, si vous voulez, je vais notifier sur les
Ah ouais.
différents postes. C'est le milieu, parmi les trois du milieu, qui a joué le plus bas sur la ligne. Donc, ça veut dire que même dans l'intention. On peut avoir rongé un profil qui, vas-y, ne va pas trop vers l'avant. Ça peut arriver, tu vois. Mais que Veretout, si lui aussi s'y met, en fait, on va jamais y arriver. On va vraiment jamais y arriver. Je veux bien qu'il n'y ait pas de mouvement devant, etc. Mais c'est difficile. Honnêtement, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais oui, Ounahi, ne serait... après, il faudra. Après, le joueur, il est comme ça. Hein. Le mec, il défend pas spécialement. Trouver deux chiens de garde qui défendent pour lui derrière, tu vois. Mais
Ouais, c'est aussi ça.
c'est un profil dont on aurait vraiment besoin pour le coup.
On
Vraiment besoin.
attend que tu nous on attend que tu nous mentionnes sur les
J'envoie ça
stats.
tout de suite. Vraiment tout de suite.
Non mais ouais. Non mais après oui, après je pense que de toute façon contre Lille globalement y en a peu qui ont été au niveau. Là on parle du milieu mais enfin voilà, c'est le sujet du milieu, mais y a aussi d'autres joueurs qui n'ont pas été au niveau, qu'on n'évoque pas forcément sur ce match contre Lille. Mais ouais, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le sujet du milieu. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec la volonté de ne pas forcément voir ce milieu à 3 reconduit sur les prochains matchs. Mais voilà.
On dit ça, mais qui on mettrait? Genre là, il y a match mercredi. Non, c'est jeudi, je suis malade. Il y a match jeudi, on va mettre qui? Genre, c'est bien bon, on veut tout changer, hein, mais on mettrait qui? Enfin, c'est pas vous, hein, vous mettrez qui? Enfin, du moins, vous sortirez qui? Parce que j'ai compris que vous allez mettre Harry Tanguy, mais vous sortez qui?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, pour moi, peu importe. Pour le coup, il n'y en a pas un qui mérite plus
Bon.
que l'autre de sortir. Il faut juste instaurer une relation. Faut juste instaurer une rotation, pardon, avec les trois.
C'est
Et
dur, hein.
je viens de regarder l'occasion. Hein. C'est bien Veretout qui donne le ballon à Aubameyang, Ruben. Je viens de mettre MyCanal à l'instant.
Après,
J'étais
c'était
sûr de
peut-être pas
moi.
10 mètres de 10 mètres comme il le
Ouais, est-ce que
disait.
dans leur
Mais en fait,
définition, peut-être.
c'est parce que la passe est considérée comme ratée parce qu'Aubameyang joue mal le coup et qu'elle est captée par le
Ah,
gardien. Je pense que
ok,
c'est pour ça que ça biaise la stat.
ok. Après, c'est vrai
Ok,
que
autant
Veretout
pour
a
moi.
pas fait un bon match. Hein. Je crois qu'il réussit même pas
Non, on est
60%
d'accord.
de ses
Mais
passes contre
c'était quand même
Southampton.
la, pour moi,
Après, moi, je
la
lui en
plus belle
veux pas
action du
trop, parce
match.
que.
Donc.
Moi, je ne l'en veux pas trop parce que c'était le. Pour une fois, tu sais, c'était le placement et le rôle que Gattuso lui a donné. Il était un peu flou, tu vois. Genre, même nous, on se demandait, mais. Tu voyais que le mec, il était entre deux, tu vois. Il ne savait pas quand fallait sortir, il ne savait pas quand fallait un peu chasser sur le côté. C'est compliqué. Là, pour le coup, toi, à la limite, moi, c'est plus quand tu as le ballon pour moi que ça me dérange. Sans ballon, c'est compliqué à défendre sur la largeur et autres. Et tout le monde était un petit peu en retard, ça, je peux comprendre. C'est une question de bloc collectif. Après, avec ballon, les gars, vous restez des professionnels, tu vois. Vous restez des professionnels. Je sais que par moments, c'est difficile de ne pas trouver des solutions et autres. Et quand on l'a vu, en plus, en début de première, quand il a fait sa frappe et tout, je me suis dit, bah. Enfin, il a compris qu'il fallait qu'il se projette et tout, tu vois. Et non.
Ouais, non, en tout cas, ça témoigne des difficultés que tu as pu avoir samedi. Hein. Des joueurs comme Veretout qui, habituellement, d'ailleurs, sur la stat que tu sur laquelle tu m'as mentionné, je vais la diffuser pendant quelques secondes avant de passer au dernier sujet. Mais c'est seulement la deuxième fois en 62 matchs hein, que Veretout ne réalise aucune passe vers l'avant au cours d'une rencontre. Il avait une moyenne de 6,82, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant que voilà, quand on voit la moyenne, voilà, sur un match comme celui-là, si tu es à 6,82, tu es dans ceux qui font le plus de passes vers l'avant. Donc c'est aussi symptomatique, hein, je pense. Que...
Ouais, ça, de sa méforme aussi, hein. C'est symptomatique lui-même. Il était bien pourtant en plus. Hein.
Bah, jusque là, moi je trouve que c'était. En tout cas, moi je trouve que sur le début de saison, c'est le meilleur milieu.
Ouais, c'était le meilleur. Franchement, moi qui ne suis pas très fan du joueur, c'était le meilleur. Devant Clou.
Et puis
devant
surtout,
Clou, même lui, alterne le chaud et le froid, tu vois.
Ouais, et puis surtout, comme le disait Younes, il est très fort quand il a la possibilité de se projeter, donc forcément de commencer de plus bas. Et là, pour le coup, c'est pas forcément le cas, il redescendait beaucoup. Mais tu vois, je préfère le voir faire des mouvements qui vont du bas vers le haut, si on se projette là-dessus sur le terrain, que l'inverse. Et c'est surtout de là qu'il est bon. Hein. J'ai en tête une action contre le Pana où en prolongue, tu vois, qui te fait une projection de fou, juste avant le raté de Vitinha, je crois d'ailleurs. Enfin,
sur ce grand souffle.
Ouais, exactement. Ouais, et puis c'est déséquilibrant pour l'équipe adverse d'avoir ce genre de joueur qui fait ces courses-là. Ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut le revoir plus bas.
Il apporte un surnombre dans cette situation-là, pour le coup. Et samedi, ce n'est pas du tout la configuration.
Vu que le latéral gauche n'est pas capable de le faire.
Je pense qu'il ne faudra pas trop compter sur lui cette année.
Ouais, qui tienne en vie, qui reste en vie déjà.
Ouais, ça... Qui reste en vie, vraiment, parce que...
ça serait pas mal.
Mais c'est des gros bails assez,
c'est sale. comme on dit chez moi, c'est sale.
C'est horrible, horrible.
Ouais. Mais du coup, je vous propose de passer au dernier sujet. Il nous reste quelques minutes. Petite projection sur Athènes, cap sur Athènes. C'est peut-être le micro-rayon de soleil pour l'OM en ce début de saison. L'OM est premier de sa poule d'Europa League. Jeudi, déplacement chaud en Grèce. À Athènes au programme afin de conforter du coup cette première place et pourquoi pas prendre une très belle voire très sérieuse option pour la qualification, même si le groupe reste serré parce que voilà, Athènes n'est qu'à 3 points pour ceux qui ne savent pas avoir. Donc la blessure de Gigot ce samedi, on n'a pas de nouvelles, je ne sais pas si vous en avez, moi j'en ai pas. Unai également blessé, mis à part ces deux là, pas d'absent. Est-ce qu'on ne serait pas sur un des matchs les plus importants de la saison, les amis ? Ne répondez pas tous en même temps.
Harry Lès, je sais qu'il a un avis assez particulier sur l'Europa League. Je pense que tu peux commencer.
Ah, bah écoute.
Ouais, moi, avant le match face à l'AEK, j'avais la crainte de revivre la même. Le match aller, de revivre la même poule d'Europa League qu'il y avait avec Sampaoli. Là, t'es premier de poule au bout de 3 journées. C'est quelque chose qui n'est pas trop arrivé ces dernières années. Je crois même que c'est la première fois depuis. C'est même la première fois au XXIe siècle qu'on doit être premier de poule au bout de 3 journées d'une phase de groupe de Coupe d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. C'est un match où je peux.
On avait été premier pendant 15-20 minutes hein, quand même à la mi-temps l'année dernière en Ligue des Champions.
C'est une dinguerie ça.
Non.
C'est obligé de rouvrir les plaies comme ça?
Au bout de 3 journées arrêtées, même en prenant en cours de match, mais il y a une option à prendre avec ce déplacement à l'AEK où tu peux clairement assurer au moins les 2 premières places en gagnant parce que tu mettras à distance l'AEK. Je sais pas si c'est Brighton ou l'Ajax qui est second, j'ai oublié.
Ils sont à égalité.
En sachant que de l'autre côté, je pense que Brighton va faire le taf contre l'Ajax.
Attention, c'est là-bas. Hein. C'est. Pardon, c'est l'AEK Athènes et Brighton qui sont à égalité. Et c'est l'Ajax qui a 3 points. Je me suis trompé, hein, je me corrige.
Mais en fait, c'est un tournant parce que si tu fais match nul, bah, il faudra faire le taf contre l'Ajax et contre et peut-être aussi contre Brighton. Mm-hmm. Par contre, si tu perds, l'option jouer une troisième Coupe d'Europe cette saison, elle va
Ah ouais oh, je ne suis pas sûr du tout. Hein. Je pense que rien sera décidé, même si tu perds. Parce que bah, déjà, en troisième position, tu vas en conférence.
Oui, mais tu vas te compliquer la tâche, mais d'une certaine manière, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied d'aller perdre à Athènes. Donc, c'est un match décisif pour moi qu'il faut gagner, absolument gagner. Mmh. Surtout qu'on n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. Surtout qu'on se rappelle de notre dernier déplacement en Grèce, et même de nos derniers déplacements en Grèce au pluriel, par exemple contre l'Olympiakos. Ah. Je ne sais plus si contre le PAOK ça s'était bien passé. Mais faut gagner, prendre de la confiance dans cette Coupe d'Europe, montrer que la dynamique qu'on a en championnat, c'est pas du tout la même en Coupe d'Europe, et aller chercher cette première place du coup, parce que ce serait con de passer par les 16e de finale, surtout que je pense que si on va en 16e, vu qu'on tombera face à une équipe qui sera un reversé de Champions League,
c'est un petit bourbier, ouais, cette deuxième place.
Donc je pense qu'il faut vraiment aller chercher cette première place, il y a de quoi. Je pense que si on gagne nos deux prochains matchs, on l'assure. Et on pourra même aller tranquillement à Brighton pour la dernière journée.
Ouais. Non, je serais pas aussi difficile que toi s'il y a défaite. Mais attention, hein, ce déplacement à Athènes, je pense qu'il ne sera pas facile. Cette équipe d'Athènes a gagné à Brighton et Brighton va devoir jouer à Athènes prochainement. Donc à suivre comment ça va se passer. Et ouais. Bah, à voir. Mais ouais, là, actuellement, tu as 5 points. Tu as l'AEK et du coup Brighton qui sont à 4 points. Et l'Ajax a 2 points. Si tu gagnes, effectivement, tu passes à 8 points. Tout dépend de l'autre match. En fait, c'est ça. Je pense que dans cette poule, difficile de se prononcer tant rien ne dépend que de l'OM, en fait. Enfin, oui, effectivement, si tu gagnes tous tes matchs, tu finiras premier. Mais bon, ça paraît difficile à imaginer. Donc, tu dépends forcément des résultats de l'autre match. Tout simplement, le prochain match, c'est entre Brighton et l'Ajax, c'est à Amsterdam.
Si et pour le coup, l'Ajax est sur 2 victoires d'affilée.
Voilà, et si l'Ajax gagne, bah, l'Ajax est à 5 points. Au final, si toi, si tu te retrouves à faire un nul, ce qui est probable à Athènes, tu te retrouves avec un groupe avec des équipes à 6, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 4 points à 2 journées de la fin. Difficile de savoir qui passera. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu sur ce type de poule où, à la dernière journée, le premier peut finir quatrième et le quatrième peut finir premier. Tiens, ça me fait penser à une autre poule. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est pareil. C'est une poule où, pareil, Tottenham avait perdu hein, la dernière contre le Sporting. Personne n'y croyait. Enfin, c'était un peu une surprise. La Brighton a perdu contre l'AEK. Ça ressemble un peu à ce genre de poule, à voir si c'est l'OM qui sera le donjon de la farce ou pas. Mais en tout cas, ouais. Potentiellement, si jeudi tu vas prendre 3 points à Athènes et que sur les deux derniers matchs qui seront des matchs difficiles, tu as quand même un match de gala à domicile contre l'Ajax, c'est sûr que tu peux rêver, pourquoi pas. Je sais pas, toi Younes, qu'est-ce que tu en penses de ce match de ce jeudi, d'une manière plus générale, cette Europa League? J'en parlais en introduction, c'est un peu dans ces saisons qui sont plus compliquées en Ligue 1, c'est un peu des espèces de, peut-être pas des rayons de soleil, mais ça te permet d'avoir un autre contexte.
Une bouffée d'oxygène, clairement. Et je pense que la victoire contre l'AEK a fait du bien, même si dans le contenu, on l'a déjà dit, c'était pas trop ça. Mais je pense que les 3 points étaient vraiment importants. On a quand même une belle communion avec le public aussi. C'est toujours agréable d'avoir de belles soirées européennes au Vélodrome. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour les joueurs, surtout dans ce contexte actuel. Donc ouais, je pense que ça peut être une bouffée d'oxygène. Pour moi, le match de jeudi, il est... J'ai envie de dire capital, parce que si tu prends 3 points là, concrètement, la phase de poule, elle est quasiment pliée. Hein. T'es quasiment certain d'être qualifié. Et tout ce que tu vas jouer ensuite, c'est un gros match contre l'Ajax où tu vas aller pouvoir verrouiller la première place. Donc je pense que tu te mets dans une configuration qui est quand même assez belle et qui peut peut-être driver un peu la dynamique en championnat aussi, parce que tu auras moins de pression sur ton match du jeudi. Et encore une fois, je ne vais pas être redondant sur le sujet, mais je suis un peu craintif de ce match-là par rapport à l'approche que Gattuso va en avoir. C'est-à-dire que quand on sait que c'est un déplacement à l'extérieur, qui plus est en Grèce, comme on l'a dit, où ça va être assez chaud, ça va être bouillant, on sait qu'on va être attendu là-bas. J'ai encore une fois peur de revoir ce milieu à 3 et pour le coup, j'ai vraiment, comme vous l'avez bien compris, pas beaucoup d'espoir dans ce milieu à 3 et j'ai juste peur qu'on doive se contenter d'un match nul ou voire pire si les planètes ne sont pas alignées, qu'on perde avec beaucoup de regrets. Donc pour le coup, je pense que c'est un match qui devrait être assez agréable pour eux à jouer. C'est-à-dire que tu n'as pas énormément de pression, tu sais que tu vas pouvoir te refaire si jamais ça se passe mal. Donc on doit être conquérant, on doit vouloir aller chercher les 3 points. L'avantage que tu vas pouvoir tirer de la victoire est beaucoup plus grand que les risques que tu auras à subir si tu ne gagnes pas là-bas. Donc on a vraiment tout de notre côté pour essayer d'aller gagner là-bas et de nous faciliter la tâche pour la suite de la saison.
Ouais, non, écoute, ouais. Non, je suis en phase avec toi,
Et
mais gros, gros
je sais
match. Ouais.
pas si
Et en plus, on joue
dans les...
enfin à 21h.
Ouais, on nous respecte un petit peu,
Oh.
effectivement. Mais je sais pas si l'attaquant de l'AEK sera de retour ou pas, du coup, sur ce match-là, j'avais cru comprendre que c'était un joueur assez intéressant de leur côté.
Quand tu parles de l'attaquant, tu fais référence à quelqu'un ou pas?
Ils avaient... Non, ils avaient leur numéro 9 qui n'avait pas joué ou qui était un peu diminué contre l'OM, si je me trompe pas.
Ah, je suis pas spécialiste de Levi Garcia, apparemment. Hein. C'est de lui que tu parles, je crois.
Ouais, c'est pour ça que j'en appelle au chat, du coup, pour savoir
Ouais,
si...
non, mais apparemment, selon le chat, c'est Levi Garcia, le Trinitéen. Il a rejoué 28 minutes contre Kifsia ce week-end. Donc, potentiellement, il sera là.
Ok, ben, ça peut peut-être changer le visage de cette équipe-là. On aura le général Léo Balerdi pour veiller au grain
On n'en doute
sur ce
pas.
diable de
On doute
Trinidad et
pas.
Tobago.
Après, à tous les coups, c'est pas lui, hein, je sais pas. Mais effectivement, en tout cas, lui était absent contre l'OM et en tout cas, il est revenu. Mais à voir. Mais ouais, 3 petits points, ça permettrait. Bon, l'AEK Athènes est censé être inférieur au Panathinaikos, qui est premier assez largement du classement du championnat grec. Donc, il faut faire le taf. Voilà. Même si la confiance du moment ne pousse pas à être optimiste. Ruben, toi, ton avis sur le match de ce jeudi, tes envies, cette campagne européenne, comment tu la vois?
Moi, le match de jeudi, je le vois un peu comme le match à Francfort l'année dernière. Pour moi, c'est un peu
C'est le match qui va t'enterrer?
c'est un peu
C'est ça que tu veux dire?
c'est un peu le même tournant. Je vous cache pas que c'est un peu le même tournant où normalement, bah, à cette époque-là, on était premier aussi, pareil. Hein, je crois avant d'aller à Francfort, je crois qu'on était premier ou premier égalité, quelque chose comme ça. Et c'est un peu le même la même physionomie. Hein, je pense que, bon, en fait, t'as tout pour te qualifier. Après, en plus, t'as un match à domicile derrière l'Ajax pour pas t'envoyer un match compliqué à Brighton en dernier. C'est vraiment la même physionomie
Ouais,
que.
c'est... Bah après, ouais, c'était le cinquième.
Ouais, sauf que c'était le cinquième, mais c'était le match pivot. En gros, il fallait juste pas perdre et ça y est, c'était quasiment bouclé, tu vois. Après, je mets beaucoup, je mets tellement d'espoir dans ce club. Je les connais un minimum, mais franchement, vu comment ils sont à la rue en championnat, je les vois pas se louper en Europa League, pour être honnête. Je pense quand même qu'on va pas perdre là-bas. J'espère une victoire parce qu'en vrai, une victoire, c'est quasiment bouclé. Ça y est, tu vas pas te mettre la pression contre l'Ajax à domicile. Et encore pire, faut pas aller te tuer là-bas à Brighton pour le dernier match. Essayer de boucler tout avant le dernier match. En vrai, moi, je pense qu'on est amplement, mais vraiment amplement en capacité de gagner à Athènes et Ajax. Ça te permettrait d'être qualifié. Après, à Brighton, soit pas perdre, ou s'ils n'ont pas fait de faux pas ou d'assurer là-bas, mais franchement, je ne vois pas perdre. Je nous vois faire un match nul quand même là-bas. Je vois les têtes un peu difficiles, je nous vois faire un match nul. Et en sachant qu'en plus, après, derrière, on entraîne à Lens. Ouais. Je pense quand
Bah
même.
écoute, ouais.
Je pense vraiment à un match. Mais encore une fois, pareil, la semaine, elle peut être vraiment catastrophique, les gars.
Ah si tu oui oui si tu si tu si t'as pas de résultat jeudi et que dimanche t'as un truc qui...
T'as fait nul contre Lille, tu gagnes pas à Athènes et tu perds à Lens.
Ouais. Non, je vais être pessimiste, mais dimanche déjà je suis
Moi
persuadé qu'on
aussi.
gagnera pas. Désolé, je ne vois pas. Avec les matchs qu'on fait contre eux ces dernières années.
Et en plus, comment ils vont nous attendre et... ouais, oui. Non. Même, après, en plus, Lens, même quand on joue bien, on arrive à perdre là-bas. Et
oui.
Ça fait 2 ans qu'on joue contre eux et on est. Pour le coup, je crois que c'est les seuls matchs dans l'année où j'en veux jamais à l'équipe. Limite, je suis fier d'eux. Je suis fier de à chaque fois qu'ils perdent tellement ils jouent bien. Tu vois, c'est des fautes à pas de chance pour le coup. Mais là, ce qu'ils vont nous faire à Bollard en plus, s'ils font un bon résultat contre le PSV et tout.
Ah, ça, c'est sûr que ça va être un match. Tu vois le mode, ah ouais. C'est simple. Tu vois le mode Ligue des Champions qu'ils ont mis contre Arsenal.
Ah ouais, en plus, ils vont appuyer sur le même bouton. Vraiment, c'est un peu le même délire. Donc vraiment, vaut mieux vraiment gagner à Athènes, au moins pour atténuer la semaine. Et après, on verra pour Lens. Mais ouais, il faut
faire une croix sur cette Ligue 1, c'est ça que tu veux dire, et tout mettre sur l'Europa League, si c'était aussi simple.
Au moins, non mais au moins, non, ça te crée un truc, tu vois. Au moins, te créer un petit friton.
Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'Europa League, là, cette saison, elle est essentielle